d'accord et restons zen.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Je vous emmerde. Je rentre à ma maison.
Tu me prends le cœur.
Ça, c'est un couteau.
Tu peux lui faire bobo.
Tu aimes les films sur les gladiateurs?
That's what she said.
Yippie-ki-yay, pauvre con.
Considère ça comme un divorce.
Rambo, c'est une pédale.
Et bonjour à tous, vous êtes dans le podcast qui en 2024 n'est toujours pas à l'heure, avec des animateurs qui savent toujours pas comment parler et des bloqueurs qui ne publient toujours rien. Parmi ceux-là, nous avons en face de moi Greg du blog Bière Lanterne.
J'ai publié en fin d'année.
Oui, mais pas en 2024, c'est bien ce que je dis.
Oui, non,
si je l'ai pas dit, je le pensais. Voilà.
Je publierai au moins une fois en 2024.
Un autre en face de moi qui ne publie rien parce qu'il n'a pas de blog, c'est, enfin, pas ma connaissance, tout du moins, c'est Brice, notre technicien de taciturne de l'extrême. Et je ne suis pas, je suis arrivé à le dire.
Quelle énergie.
Pas, mais il en faut un peu quand même.
Ouais, le mec sort d'une raclette quand même.
C'est un apport énergétique très fort d'un coup, tu vois. Et donc, je vous présente ce podcast depuis mon siège en face des deux autres. Et j'ai un blog que je n'alimente pas non plus, qui s'appelle Les Arts Narratifs.
Nous, on s'alimente, par contre.
Voilà. On remplace nos nourritures culturelles. Voilà, donc, Les Arts Narratifs, c'est un blog qui, normalement, quand on publie des choses dessus, parle de tout ce qui peut raconter une histoire, BD, série, film, roman, et peut-être même un jour un article sur un Père Noël qui rencontre le Père Fouettard dans un club BDSM en se demandant à l'odeur de son scrotum qui joue le renne.
Alors, scrotum, je rappelle, c'est le mot-clé de Eric pour démarrer le podcast. Donc, voilà. Mais c'est dommage, il faudrait que je vois si je retrouve les rushs. Un jour, je vais faire une chanson où on t'entend dire que scrotum, je vais voir si je peux le remixer.
On pourrait.
Et du coup, bonne année à tous celles et ceux qui nous écoutent, même si c'est un peu tard.
Bonne année.
Voilà. Bonne nouvelle en chinois. Ça doit peut-être être ça, pas loin.
Je sais pas quand est le nouvel an chinois ou le nouvel an
juif.
Là,
en ce moment, dans les supermarchés, que tout chinois. J'imagine que.
C'est vrai. Il y a le nouvel an belge le 21 novembre qui a été promulgué par le Hub Square à Nantes, nos copains du Hub Square. Bon, ouais, ça n'existe pas, mais c'est très drôle. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve. Bonne résolution de l'année. Visiblement, c'est pas publié plus d'articles. Hein.
et je pense que c'est pas publié à l'heure de nos épisodes de podcast non plus. Donc.
Non. Bon, on a été un peu débordés, comme beaucoup de gens au début d'année, c'est toujours un peu le bordel. Hein.
Voilà. Mais on dit ça donc, tous les mois de l'année, donc
voilà.
C'est toujours un début d'année pour nous.
Oui, mais toi, tu étais aux États-Unis.
Tout à fait.
Tu étais aux États-Unis. Nous, ici en France, fallait faire les bilans, tous les trucs les plus géniaux à faire, les inventaires et tout ça. Et du coup, ça prend du temps et on est le 4 février au moment où on enregistre. Donc voilà. Donc,
on va parler bière quand même.
On va quand même parler bière. On est en train de déguster justement une...
Une bière qui n'a pas de rapport avec le sujet de l'épisode.
Du tout. Mais alors, une bière qui s'appelle l'Apothéose de chez la brasserie Piccadilly dans les Vosges. Une brasserie que j'ai vue distribuée par nos potes de chez Formidable et que j'ai vendue au bar il y a quelques temps. Et donc, on est sur une Imperial Sour, je dirais. Hein, c'est une Imperial Sour au Dragibus à 10%. Alors,
il y a 10% de dragibus dedans ou...
Non, c'est 10% d'alcool. 10% ABV, comme on dit dans le jargon.
Pourquoi tu prends un accent belge pour
je
ça
Je sais pas, c'est une fruit. Et c'est une couleur blonde, on va la faire vite fait. Bon, la mousse, on la voit plus trop, et puis elle était pas très persistante. Ça sent pas trop le bonbon. Hein,
c'est bizarre dit comme ça, ça sent pas trop le bonbon.
Non, en fait, tu sens le côté un peu, oui, il y a un peu côté bonbon, un peu chimique, mais c'est pas, ça sent pas genre le waouh, ça sent le paquet de dragibus que j'ai ouvert, tu vois.
Non, ni même le paquet de Fastagada.
Voilà, mais le goût, ça peut être un petit peu sur le bonbon.
L'acidité du
bonbon, du dragibus. Quand tu en prends, tu sais, une bonne poignée, là, selon les bonbons, je crois que c'est ceux qui sont noirs, qui sont goût un peu cerise, comme les Mon Chéri, tu vois.
Il t'en regarde bizarrement quand tu dis ça, Brice.
C'est étrange.
Non, Mon Chéri, c'est comme étrange. Je t'appelle en général en dehors du podcast.
Oui.
Mais,
c'est étrange.
Voilà. Que dire.
Déguste-moi quand même, mon chéri.
Exactement. On est très contents parce qu'on a remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est-à-dire, il y a au moins 4 personnes de plus qui nous écoutent.
Peut-être qu'ils démarrent le podcast en mode silence.
Aussi.
C'est leur poche, ils sont pas exprès.
Ils attendent, voilà. On s'est dit, non, on a eu un pic à presque 600 écoutes, on a rien compris. A priori, ce serait pas un bug, mais bon. Bon, ben, aux 587 personnes, ils ont écouté une fois dans leur vie. Pardon. Désolé, du coup.
Et aux 3 autres, merci de nous suivre.
Merci de nous suivre. Et aujourd'hui, donc.
On va parler de bière.
On va parler d'une bière qui s'appelle la Cloug. Alors la Cloug, c'est une bière qui est brassée par nos amis de chez Sainte-Crue à Colmar, une brasserie qu'on avait d'ores et déjà présentée dans l'épisode spécial sur Tim Burton, qui, je le rappelle, était un épisode sur lequel on avait parlé de 3 bières différentes.
Tout à fait.
Voilà, il y avait une bière de chez Sainte-Crue, une bière de chez Hoppy Road et la troisième m'échappe, comme ça de mémoire, je ne l'ai plus.
Elle est partie.
Pour cet épisode, donc plutôt que vous refaire une histoire de Sainte-Crue puisqu'on les connaît, puis c'est une brasserie qui marche plutôt pas mal. Je me suis dit que j'allais vous parler Je sais que j'allais vous parler en fait d'un événement récent auquel j'ai participé qui était les repas préhistoriques de la grotte Cosquer sur lequel on avait fait des bières, donc c'était marrant. Ce qui me permettra de basculer sur le sujet brassical du jour qui va être sur l'histoire de la bière. Alors, dans les très 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 grandes lignes, parce que c'est quelque chose qui est très 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 long à raconter, mais c'est histoire de faire un petit topo historique.
Surtout si on rajoute des très 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 à chaque mot quand même.
Très très très. Et donc, avec cette bière, donc, Eric, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors, on est un peu resté dans le thème de Noël, parce que bon, cet épisode devait peut-être sortir le 25 décembre. Non, je déconne. peut-être le 10. Mais, décembre. Mais donc... On est resté dans la thématique de Noël, mais Noël un peu sur le tard, quoi, tu vois. Mais donc, du coup, j'aurais pu parler de plein de trucs de Noël, en fait. Comme j'en avais déjà parlé lors de l'épisode de Noël avec Dose par Sec, j'aurais pu parler du Noël des Muppets.
Oui.
Car on parlait de Noël de Scrooge avec Kermit, c'est toujours fun, quoi. J'aurais pu parler de L'étrange Noël de Mr. Jack, le film d'Henry Selick que tout le monde n'attribue qu'à Tim Burton. Alors qu'il n'est pas réalisé,
oui.
Voilà. vous avez Santa et compagnie. Parce que j'aime bien ce film avec Alain Chabat, donc pour
un jour,
je le repasse à chaque fois.
Ouais,
j'aurais pu vous parler de Noël. Oui, une petite comédie Disney+, un style téléfilm sorti en 2019 aux États-Unis, en 2020 en France, avec Anna Kendrick.
Oui, je l'ai
Bill
vu.
Bill Hader.
On aurait pu en parler, effectivement.
Ce n'est pas dingue,
j'ai pas vu.
Mais c'est mieux que les téléfilms Hallmark, quand même, tu sais.
Allez.
Mais au final, ce qui sera au menu ce soir, vous l'avez peut-être deviné en entendant le mot Cloug, ça sera le Père Noël est une ordure.
Exactement. Et alors, avant d'entamer donc toute l'histoire de derrière le Père Noël est une ordure et donc toute la troupe du Splendide, je vais donc, comme je le disais tout à l'heure, vous parler de cette expérience que j'ai faite brassicole, évidemment.
Une expérience brassicole.
Vous savez que je reste toujours sur Shérif et Moiteur que Brice nous avait trouvé, qui est pour moi le meilleur titre de Boulard au monde, si on veut parodier Shérif et Moiteur, à écouter dans notre avant-dernier podcast, puisque le dernier était sur Kevin Smith et toute sa clique.
Kevin Smith.
Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la grotte Cosquer, c'est un peu comme Lascaux, qui est la plus connue en France. C'est une grotte préhistorique sur laquelle on a des ornements, et qui est une des plus anciennes actuelles. La plus ancienne, je crois que c'est Chauvet, justement, en Ardèche. Et donc, c'est une grotte qui a été découverte par Henri Cosquer dans les années, en 85.
J'étais vivant.
Tu étais vivant déjà.
Ça t'aide pas beaucoup pour la date.
Hein, et moi, je venais de naître. Enfin, c'était l'année où je suis né d'ailleurs. Et donc, c'est une grotte qui est immergée, hein, parce qu'à l'époque, le niveau de la mer était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, et qui a été découverte par hasard et déclarée donc par Henri Cosquer. C'est un monument très connu, si vous voulez, à Marseille, mais qui, il y a encore pas mal d'années, en fait, n'était absolument pas valorisé, puisque la grotte est immergée et inaccessible, si ce n'est pour les quelques scientifiques qui peuvent y accéder. Et jusqu'à présent, il y avait quelques musées qui mettaient en avant des trucs de la grotte Cosquer, mais il n'y avait jamais eu de musée consacré à Cosquer. Et en fait, nous, à Marseille, on a le don de s'amuser à construire des bâtiments qui ne servent à rien. Et on a créé...
Sauf des parkings.
Oui, et on a créé deux trucs pendant quand Marseille était capitale de l'Europe, capitale culturelle de l'Europe en 2013, si je me souviens bien, c'était ça.
Capitale européenne
de la culture en 2013. On avait construit donc le fameux MUCEM, qui est un très très beau musée que je vous conseille si vous passez à Marseille, c'est très cool, notamment la promenade et tout ça. Et À côté, ils ont construit un bâtiment qui est un espèce de bâtiment un peu bizarre, qui est une sorte de T, en fait, je ne sais pas comment dire.
C'est plutôt un L à l'envers.
Voilà, ouais, j'allais dire c'est un L à l'envers, au-dessus de l'eau.
Et d'ailleurs, en termes d'architecture, est assez particulier parce qu'il y a un porte-à-faux de folie sur la partie.
Incroyable. Incroyable, il a été construit sur les mêmes bases, je crois, en termes de matériaux que ceux qu'on utilise pour les centrales nucléaires. Donc un truc plutôt costaud. Et ce bâtiment,
ça, c'est pour les poubelles quand les écoles font grève.
Et ce bâtiment avait été créé, donc il y avait des salles de conférence, tout ça, et il ne servait pratiquement à rien. Et puis un jour, on a dit, on va en faire un musée sur la grotte Kosker. Donc aujourd'hui, le bâtiment a une partie souterraine et une partie en fait en hauteur. Et entre les deux, c'est des escalators, parce que le bâtiment est vraiment un étage et le sous-sol. En fait, il y a quasiment pas d'entre-deux. Et donc, ils ont créé un musée qui est très immersif, qui est très très bien, où en fait, vous plongez, vous avez l'impression de plonger, c'est un peu comme à Disneyland. Hein. Ouais. Vous avez l'impression de plonger, tout ça, et vous arrivez sur un système où vous êtes par groupe de 4 sur des fauteuils, un peu comme à Disney, justement. Et c'est un truc sur roue avec aimant, en fait, pneumatique. Et vous êtes sur une reproduction complètement exacte, quasiment, de la grotte Kosker, qui a été faite par les mêmes artistes que ceux qui ont fait Chauvet ou encore la reconstitution de Lascaux. Et c'est hyper immersif. Et donc, nous, à Bière Academy, donc, on a un de nos associés qui s'appelle Emmanuel Perraudin, qui est chef et qui est notre pote, et qui nous a dit l'année dernière, les gars, j'aimerais bien que vous fassiez pour nous une bière un peu sur le thème de la préhistoire. Nous, on était là, on dit on ne sait pas trop, si vous voulez, ce que buvaient vraiment les hommes préhistoriques. Hein, c'est quand même très, très flou. Mais on a dit, on va te faire un gruit, parce qu'aussi lointain qu'on se souvienne, les bières sans houblon, c'est ce qu'on appelle des gruits, on va faire un truc qui s'est fait avec des herbes et tout ça. Donc ça a un côté un petit peu acidulé, c'est très léger en bouche, c'est à 2-3% d'alcool. Et on va te faire un truc. Donc on l'avait fait l'année dernière, ça s'était très bien passé, mais on n'avait pas eu l'occasion de faire ce fameux repas, puisqu'on n'était pas dispo. Et cette année, donc, il nous a proposé non seulement de faire le même gruit que l'an dernier, et il nous a dit, faites-moi un deuxième, mais au poireau. Et c'est là où c'est le problème. Voilà. Je rigole, mais c'est vrai. C'est vrai. On a été obligé de faire une conf. On a fait deux confs. Donc le lundi, parce que c'était 3 dîners dans la semaine, lundi, mercredi et vendredi. Le lundi, je fais une conf du coup avec Elodie, ma compagne, donc, qui est archéologue, pour ceux qui savent qui c'est. Et donc elle a un peu parlé de l'archéologie, tout ça, au niveau de la bière. Et moi, juste du gruit qu'on avait fabriqué. Et puis le deux jours suivants, je suis intervenu solo du coup avec Antoine, qui parlait de la bière et moi de l'archéologie. Et en fait, chaque fois, on dit bien au poireau, on s'est excusé auprès des gens, parce que pourquoi ? En zytologie, le poireau, c'est plutôt un faux goût. C'est-à-dire que si vous ouvrez une bière et qu'elle sent le poireau, il y a un gros souci dans votre bière, quoi. C'est à jeter. Et là, quand vous dites aux gens, vous allez
bouffer. Ça, c'est un prototype, tu vois.
Ouais, mais non, mais quand vous dites aux gens, vous allez bouffer un truc avec des poireaux, je dis, mais il est con, lui. Et effectivement, alors, l'expérience.
Mais moi, je suis con.
Oui. L'expérience du. Alors, nous, on a dit à Manu, mais pourquoi tu nous fais faire une bière au poireau ? Et Manu nous dit, non, mais les gars, croyez-moi, c'est par rapport au truc, c'est l'expérience, en fait, vous allez voir. Effectivement, quand on a fait le repas, en fait, il n'y avait absolument rien de conventionnel. J'ai mangé. Alors, il y avait 3 repas différents, je crois, sur la semaine. Nous, on avait fait le deuxième. J'ai bouffé du criquet, de l'escargot, d'un œuf poché, gelé. Enfin. Rien n'était sursalé, donc tout était sur la base de ce qui était déjà naturellement salé, donc c'était pas très salé. Après on a laissé, il y avait des trucs que vous aimiez, d'autres moins. L'escargot par exemple, c'était le vrai goût de l'escargot. Donc pour moi qui suis pas déjà fan d'escargot, c'était pas le plat que j'ai le plus
kiffé.
Sans
la persillade, c'est moins bon.
C'était particulier. Et on a eu par exemple une espèce de truc avec de l'orgeat du miel en dessert qui était une tuerie. On a eu un alcool distillé par la romerie Ferronia au bagne sur la base d'un alcool ancien chinois. Donc c'était assez ouf. Alors après, le côté, le gruit est passé tout le long du repas, le premier. Et les gens ont kiffé, ils disent, c'est vachement bon, tout ça. Et nous, on était vraiment au milieu de la grande tablée. Et ce repas de thème préhistorique, c'est le truc original, en fait, si vous voulez, ça fait partie de ce qu'on appelle les dîners insolites. Et les dîners insolites, Emmanuel Perraudin donc fait des repas qui sont parfois au sein même de vignes, dans des bâtiments abandonnés d'urbex, des trucs comme ça. Et donc toute la gastronomie. Donc il intervient, lui, il est chef en fait itinérant. Il est de formation en plus, il est historien de formation. Donc il a décidé de faire d'être indépendant, de plus se faire chier en gros avec tout le carcan, d'avoir un resto, d'avoir des étoiles et tous ces trucs qui cassent les couilles. Quoi. Et donc on était sur tout le circuit en fait de la grotte Kosker, qui est tout un circuit comme ça qui refait toute l'expo. Et donc vous avez une tablée qui était sur, on va dire, bien plus de la moitié du circuit. Et nous on était en plein milieu en fait avec Antoine, et quand ils ont amené le gruit au poireau, on était là, fait bon putain, et ça sentait le vomi en fait, ça sentait le poireau, vous voyez. Et les gens ils nous regardaient en disant mais putain qu'est-ce qu'on est en train de boire. Et les mecs nous regardent de travers quand même tout ça, ils disent mais vous foutez quoi. On m'a dit mais pardon, mais et donc c'était censé s'accorder avec je ne sais plus quel est le plat, j'ai pas le menu devant moi parce que c'était très très complexe hein, le truc. Et bon, en fait, l'idée, c'était, l'expérience, c'était que bah, ce gruit au poireau, donc, il fallait en fait se boucher le nez pour le boire en fait en accordant avec le plat. Et apparemment, ça se passait très bien comme ça. Sauf qu'en fait, ils nous ont servi le gruit avant le plat, et donc tout le monde sentait à fond le poireau. Ça a complètement foiré l'expérience, tu vois. Mais c'était hyper original. Et voilà, donc Brice m'a retrouvé le menu. Donc le mercredi, donc on avait goûté, donc je vous le donne. Hein. Fossiles marins, rennes séchées, confits champignons sauvages, œufs cuits au grand froid.
Mais c'est-à-dire qu'ils avaient déjà du plastique à la préhistoire, parce que des fossiles.
C'est... Eh oui. Pardon.
Non, mais c'est
ils avaient des influenceuses préhistoriques.
C'est des fossiles marins, c'est du RSS avant l'heure.
Oui, des fossiles.
Ah.
Il y avait un marteau marin aussi.
Non, c'est un requin.
On est quoi ? Œufs cuits au grand froid, noisettes et insectes, escargots, cynorhodons, nombrils de Vénus. Bouillon de moelle.
Cynorhodon, connais-tu l'autre nom du cynorhodon ?
Non.
Le gratte-cul.
Ah ben bah voilà, bah j'ai bouffé
c'est
ça.
C'est l'instant culturel.
Le bouillon de moelle, chêne et lichen et gibier sur la braise. Et il y avait un truc hors gemelle qui n'est pas noté là. Et après, on avait les autres trucs. Effectivement, le vendredi, c'était carpaccio de bison, lichen et baie, peau au feu, alors peau PEAU, hein. Bouillon de pierre, tagliatelle de chêne. J'ai pas goûté, hein. Bison grillé, RBB. Et le lundi, c'était quoi ? Fossiles de sèche et de concombre de mer, baies aux œufs de poisson, huîtres, oursins et arapettes crues et cuits, poissons fumés et racines. Enfin voilà, c'est très particulier. Et ça avait lieu déjà l'année dernière, donc c'est au prix de quoi ? C'est 25 euros avec visite gratuite et on avait la conférence que nous on a animée. Quoi. Merci mon Brice. Et donc c'était une expérience assez ouf. Et donc ces fameux gruites, on a décidé de garder notre recette de gruites au poireau. Pour l'améliorer et voir si on arrive à faire un truc qui...
Une soupe.
Non mais on a fait une soupe à la bière, parce que c'est parti de cette idée-là. On avait fait récemment pour la fête de la bière de Tourve dans le Var. Antoine avait fabriqué un gruit à base de potimarron, de noix de muscade, de sel et d'oignon cuit. Et ça goûtait la soupe, quoi. C'était très particulier. On l'avait fait goûter à un festival à La Ciotat, c'était assez marrant. Là, en l'occurrence, le poireau, c'était vraiment un cran au-dessus. Et là, effectivement, donc poireau et oignon, on avait fait... Et on n'était pas allé plus loin. Donc, du coup, on s'est dit, on va peut-être améliorer notre truc et essayer de faire un truc qui va sentir un petit peu moins le poireau. et faire un petit peu plus envie, on va dire. Et donc, quelqu'un, à un moment donné, nous a quand même fait cette réflexion et qui va être une parfaite transition. Parce qu'il est vrai, en plus, quelqu'un nous a vraiment fait cette réflexion. Mais cette bière, vous l'avez roulée à la main sous les aisselles ou quoi ? J'ai dit, bah, en fait, non. Mais justement.
Comme quoi, la référence culturelle est restée.
Et oui, justement, cette référence. Donc, je fais cette transition et tu vas maintenant nous parler, avant que j'entame un sujet plus généraliste sur l'histoire de la bière. Tu vas nous parler, Nounours, avec Brice, de Le Père Noël est une ordure.
Oui, du Père Noël est une ordure, ou plus généralement de. Du Splendide, la troupe du Splendide, des comédies françaises, etc., etc.
Splendide.
Ça, c'est pas une comédie française, c'est une comédie américaine.
Ah, merde.
Adapté d'un comics, d'ailleurs, mais bon. Donc, je vais vous parler... The Mask.
Vous regardez jamais le deuxième.
Ni le dessin animé, du coup.
Ni le dessin animé.
Donc, on raille énormément les comédies françaises au cinéma, symptôme d'un cinéma papa, d'un manque d'inventivité et de renouvellement. Ou alors des films produits à pas cher et souvent avec une affiche dont les couleurs sont généralement le bleu et le jaune.
Putain ouais, stagiaire des affiches si vous suivez sur Twitter.
Voilà, lui, je crois qu'il a même un compte Facebook qui est équivalent, quoi. Bref. Et là, on est vieux, on ne parle que de Twitter, qui est devenu X, et de Facebook. Donc n'allez surtout pas sur TikTok, vous ne nous trouverez pas.
Oui.
Voilà. Voilà.
Ah, vas-y, j'ai un compte depuis peu, mais je ne me l'alimente pas.
Ouais, voilà. Cependant, si la répétition a été dommageable pour le genre, il faut bien avouer que celui-ci a parfois des fulgurances, que ce soit auprès d'un public ou de critiques parfois un peu réac. On ne peut pas dire que j'apprécie forcément la série des Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais ça a trouvé son public.
Hein. Oui,
ça, on peut pas l'enlever. Ou avide de se confronter à une stupidité bien plus grande que la sienne, en théorie. Les tuches.
Oui.
Sans parler des moqueries régionales, comme Bienvenue chez les Ch'tis, les collègues, ou des trucs très géographiquement localisés.
Ouais, un peu Corse, tout voilà. Ces trucs-là. Ouais.
Ou encore des acteurs patrimoniaux que peuvent être Louis de Funès, Bourville ou encore Fernandel. Néanmoins, il y a parfois de petites pépites à sortir du lot, plutôt de niches qui peuvent être des guilty pleasures pour certains, comme certains films découverts à l'adolescence, en comédie française notamment. Moi, je me souviendrai toujours de...
Quatre garçons plein d'avenir,
par exemple. Un film avec Patrick Sébastien, qui se passe à Aix-en-Provence, bon bref.
Oui, oui, c'est vrai.
Et ou plus probablement, des films qui mériteraient à être plus connus. Si la plupart des films de l'écurie Philippe Lachaud ne me parlent pas spécialement, j'avoue avoir souri à son premier babysitting.
Oui,
et retrouver une vibe nostalgique sur son Nicky Larson. Alors que bon, le film en lui-même n'est pas foufou. D'un autre côté, les films avec le Palmacho, réalisés par Jonathan Barré, me semblent bien plus inventifs et drôles.
Rien que le titre, rien que le nom du gars, déjà.
Voilà, Jonathan Barré. Max et Léon, la folle histoire de Max et Léon, je crois que c'est le titre.
C'est ça.
Voilà. Les vedettes. Jonathan Barré a fait dernièrement un film. Je ne sais plus le nom. Ça, c'était l'anecdote utile. Tiens.
Voilà. Il a fait un truc dont je ne me souviens pas. Voilà. Merci beaucoup. Générique.
Sur une meuf qui est prof d'auto-école.
Et oui, c'est une actrice qui a été récemment césarisée, dont le nom m'échappe, et qui a joué dans La Flamme.
Et qui a joué dans 10%, qui a joué dans Antoinette dans les Cévennes. J'ai plus son nom, je suis désolé.
Eric, Brice va nous trouver le nom, je vois qu'il est en train de chercher.
Bonne conduite.
Bonne conduite pour le film. Et l'actrice, celui-là.
Laure Calamy.
Laure Calamy. Désolé d'avoir oublié son nom. Donc, d'autres films qui m'ont bien plu en comédie, c'est Le Radio Star avec Manu Payet et Clovis Cornillac, de Romain Lévy, qui m'a bien fait marrer, en mode road trip radiophonique. Les Gamins, ou le film Play, réalisé par Anthony Marciano avec Max Poublil et Alain Chabat dans les deux cas. D'ailleurs, le film, des films un peu touchants aussi, n'est pas sale. Il y a les films qui donnent dans le rire gênant, comme par exemple les films de Fabrice Eboué, comme Casse Départ, ou encore plus récemment Barbac. Et si vous êtes plus dans la comédie romantique ou à minima, une comédie de potes, les scénarios d'Igor Gottsman sur Mon Inconnu avec François Civil et Benjamin Laverne, que vous trouvez en ce moment sur Netflix, il vient d'y arriver, ou encore Five, avec toujours François Civil et Pierre Niney, fonctionnent bien également. Je vais passer sur un monde que je commence à être vraiment trop vieux pour maîtriser, celui d'Internet, avec de nombreux talents qui ont émergé via des groupements d'abord comme Studio Bagel ou Golden Moustache, ou des individus qui, comme Cyprien, Mr. V, Natou ou Squeezie dans certaines productions, se rapprochent parfois d'une qualité cinéma, que ce soit en termes techniques ou humoristiques, au même titre que la télé des années 80-90 nous a permis de voir émerger des troupes qui ont fait leur trou sur grand écran depuis, comme Les Inconnus avec Les Trois Frères, Les Nuls avec Les Cités de la Peur, Didier, et d'une certaine façon Astérix Mission Cléopâtre, ou encore Les Robins des Bois avec Et après, bah, évidemment, chaque membre de ces troupes a pu faire des films solo qui sont devenus.
Il y a eu récemment, je l'ai vu en replay, un truc spécial Inconnu, c'était TF1, je crois, qui avait ça. Ils ont fait une petite émission où on voyait justement le trio qui revivait en fait les. C'était hyper intéressant. Je sais pas si c'est encore en replay, mais pour ceux qui sont comme moi, fans un peu des Inconnus, c'est hyper intéressant de les voir en fait donner plein d'anecdotes qu'on connaissait pas du coup sur plein d'événements.
Sur
leur carrière, leur envie, pourquoi l'épisode après Paul Ederman. La scène cachée, coupée où on voit Légitimus dans le Paris.
La scène couchée.
J'ai fait un mix des deux. La scène coupée où on voit à peine un cran d'une seconde, ils ont fait exprès d'essayer pendant une microseconde. On voit Légitimus sur l'écran parce que ça les faisait chier qu'il n'y ait pas leur pote. Enfin, voilà, c'est un replay, je ne sais pas s'il est encore dispo, mais en tout cas, je vous le conseille si vous le trouvez. Il est très, très cool.
D'accord. Bon, et toutefois, en parlant de troupes, je vais revenir au sujet de départ, parce que bon, je m'en suis un peu égaré. Car dans les années 70, ce n'est pas encore la télé qui va faire connaître des acteurs tels que Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Bruno Moineau, Michel Leblanc, Josiane Balasco ou encore Marie-Anne Chazelle, mais le théâtre, messieurs, dames. Pas vrai, Brice ?
En effet. C'est en 1974.
Wow, il était réveillé. Oh,
j'étais prêt, j'étais au taquet, j'attendais que ça.
Oh, je suis décoiffé.
C'est donc en 1974 que la bande de Joyeux Drill forme une troupe sous l'impulsion de l'actrice.
Il est toujours dyslexique quand il veut.
Ah non, ça par contre, ça ne changera pas.
Il prend une desk jet top 500.
Sous l'impulsion de l'actrice et professeur d'art dramatique Tsila Chelton.
En même temps, tu cherches, t'as vu les noms que tu lui mets.
que tout le monde connaît plutôt sous le nom de Tati Daniel.
Oh putain, c'est elle, oui.
Et sous la protection de Coluche. Okay. La troupe qui crée le café théâtre Le Splendide. Au passage, le nom de la troupe du Splendide.
Easy, facile.
Ouais, plus compliqué, c'était difficile.
Voilà.
Aux côtés de ce groupe officiel, on a d'autres acteurs qui sont désormais connus, comme Anémone, Dominique Lavanant, Roland Giraud, Martin Lamotte ou encore Valérie Mérès, qui n'est pas maire de ville, mais... Cette troupe se produira au théâtre dans 8 différentes pièces.
C'était celui-là. Pardon, excusez-moi, j'ai pas été assez réactif. Oui, on fait joujou en ce moment.
Donc la troupe se trouvera au théâtre dans 8 différentes pièces au cours de sa formation, dont certaines aux noms évocateurs. Je vous laisse juger par vous-même dans cette liste. Le concierge est tombé dans l'escalier. Non, Georges, pas ici. Je vais craquer. Ma tête est malade. Le pot de terre contre le pot de vin. Benes Bar, où les hommes préfèrent les grosses. Amour, coquillage et crustacés. Et bien évidemment, le Père Noël est une ordure. C'est l'avant-dernière pièce de la liste qui fera connaître la troupe nationalement en 1978 grâce à son adaptation cinématographique.
Cinématographique.
Oui, mais alors, quatre syllabes, c'est interdit, quoi.
Il y en a huit.
Eh ben voilà.
Cinéma traumatique.
Nommé Les Bronzés. Avant ce film, les membres de la troupe avaient pu apparaître quelque part, par-ci, par-là, sur les grands épans, séparément. Junio et l'ermite, qu'on a pu voir dans Les Valseuses en 1974. Les mêmes accompagnés de Michel Blanc et Christian Clavier dans Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Avec Jean Rochefort.
J'aime bien son nom, lui.
Et Jean-Pierre Marielle, ou encore Philippe Noiret en 1975. Junio, Blanc et Balasco dans Le Locataire d'un certain Roman Polanski en 1976. Et le 22 novembre 1978, nous avons Les Bronzés, donc adapté d'Amour, coquillage et crustacés, réalisé par Patrice Lecomte, dont c'est le troisième métrage seulement à l'époque. Son précédent film ayant été co-scénarisé avec Gottlieb était sorti en 1976, se nommait Les WC étaient fermés de l'intérieur avec Coluche et Jean Rochefort. Tout un programme, n'est-ce pas?
On est très bon en titre de film dans les années 70.
Putain, mais grave.
Et une pièce de théâtre.
Bref, Les Bronzés se déroulent en 1978. On voit Gigi, Jérôme, Christiane, Jean-Claude et Bernard débarquer en même temps au Club Med en Côte d'Ivoire, dont les animations sont gérées par Popeye, Bobo et Bourseau. À partir de là, les conquêtes, la drague, les râteaux se succèdent durant ce séjour. On se souvient bien évidemment de certaines répliques cultes. Bonsoir, nous allons nous coucher. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Il y a quel pourcentage de filles pour un mec ici? Ça dépend du mec. Et on retiendra aussi, plus que le générique porté par la chanson « Si sex and sun » de Gainsbourg, la reprise de la chanson de Dalida, « Darla dirla dada » en « Viens nous voir à Galaswinda, Darla dirla dada, il y a du soleil et des nanas ». Darla dirla dada, on va s'en fourrer jusque là. Darla dirla dada, pousse la banane et moule kawa. Tous les soirs on fera la java en hurlant agadou abba.
Alors tous les profs de musique se disent mais pourquoi il l'a pas chanté?
Parce que je n'avais pas envie de chanter aujourd'hui. Voilà.
Mais oui.
Ouais, je comprends. Pourtant j'avais bien savonné la planche. Hein.
Oui, mais clairement. Mais je ne me suis pas laissé avoir. Le vestimentaire.
Voilà.
Cinématographique. c'était déjà ça.
C'est ça. Bon, ce que l'on retiendra aussi, c'est quand même le succès du film en salle. Parce qu'avec 2,2 millions d'entrées, en le plaçant au 12e du box-office français en 78, pour vous donner une idée du top 5, cette année-là, c'était Rencontre du troisième type en 5, La fièvre du samedi soir en 4, Grise en 3, La cage aux folles en 2 et Midnight Express en 1. Trouver l'intrus. Hein,
ouais, c'est clair.
Et en 1, Midnight Express avait 5,9 millions d'entrées.
Oui, quand même.
Donc, il n'en faut pas moins pour lancer la production d'une suite qui sort l'année suivante, en 1979. Le même groupe d'amis file cette fois dans la station de sport d'hiver de Val d'Isère, où, comme le hasard fait bien les choses, Jérôme, Gigi et Popeye travaillent. Hasard comme par hasard.
Oh, tiens, c'est étrange.
C'est étrange, n'est-ce pas? La dynamique est un peu la même, hein. Les répliques restent aussi. Je crois que toi et moi, on va avoir un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Enfin, surtout toi. Bon, dans une demi-heure, je nous considère comme définitivement perdus. Je sens que je vais conclure de Jean-Claude Duss. Assez goûtu, ça a du retour. Bref, plein de répliques cultes. La BO est composée cette fois par Pierre Bachelet.
Oui, Pierre Bachelet.
Qui va même jusqu'à recréer la chanson « Étoile des neiges » sous le nom « Quand te reverrai-je, pays merveilleux ?» car, tout bêtement, les droits pour la chanson originale étaient trop élevés. Alors que bon, la chanson originale, qui s'en souvient en réalité?
Oui, c'est clair.
En fait, le film fera néanmoins moins bien au box-office, avec seulement 1,5 million d'entrées, ce qui le placera en 19e place en 1979. Allez, là aussi, top 5, pour cette année-là, pour se faire une idée et un peu rire. En 5, Moonraker, le James Bond. En 4, Et la tendresse bordel. En 3, Flic ou voyou. En 2, Apocalypse Now. Derrière le premier, attention, Le gendarme et les extraterrestres. Oui, 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 qui fera 6,2 millions d'entrées. Et
oh merde.
Pour l'anecdote, il y a une chaîne YouTube, j'en avais parlé dans un épisode précédent que je vous conseille, puisque ça s'appelle Nienko TV. Le gars en fait des reviews de films uniquement francophones, à part peut-être quelques rares exceptions, je crois, sur les Die Hard. Et il avait récemment fait justement un épisode spécial sur le Splendid, sur les bronzés font du ski, et le premier. Et donc je vous le recommande, parce que en plus de notre podcast, vous apprendrez en plus des anecdotes assez poussées aussi sur le tournage, comme quoi par exemple il ne voulait pas faire ce film à la base, et que par exemple Michel Blanc c'était complètement écarté de l'écriture du scénario, voilà, qui avait, en fait ils y sont allés mais vraiment à reculons sur ce film, et ils pensaient vraiment que ça allait capoter, et en fait le film a cartonné limite plus que le premier, enfin en termes de succès culturel et critique, on va dire. Et si jamais vous voulez en prendre plus en plus sur ce sujet, c'est vrai qu'il a fait un très bon sujet, je crois, en deux vidéos. Que je recommande du coup.
Ouais.
Et donc voilà, c'était juste pour vous donner une petite source en plus si ça vous intéressait.
Tout à fait. Donc vous vous doutez bien qu'un film qui passe derrière Le gendarme et les extraterrestres, ouais, ça reste quand même on est au top de la comédie française malgré tout. Bon, et tant qu'on parle de gendarmes, ça me rappelle que l'on a fait un épisode complet dessus, le 12e pour être précis, sorti, et ce n'est pas une blague, le 1er avril 2022.
Avec un mec qui faisait beaucoup trop de blagues.
Trop. Plus que nous. Et des aussi bonnes. Et si vous l'avez raté, c'est tellement simple de le rattraper en allant farfouiller dans vos applis de podcast, les amis. Et surtout, pour ne plus jamais en rater, vous abonner à Les Bières Narratives. On est con d'avoir mis un lait devant nos trucs, en fait. Et si en plus de cela, vous êtes vraiment tête en l'air, vous pouvez vous abonner à nos comptes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou encore X, alias Twitter en une lettre, parfait pour jouer à Pyramide ou Codename. Enfin, si malgré tout ça, vous avez peur de nous louper, parlez-en à votre barman, votre libraire, votre caviste, vos potes, en ne leur disant pas qu'on vous a forcé, hein,
surtout pas.
Ne dites pas ça, parce que s'ils appellent la police, on est un peu mal, en vrai. Et j'imagine également qu'à la fin de cette écoute, vous voudrez aussi nous encourager.
Évidemment.
En nous mettant une très bonne note sur vos applis de podcast. Évidemment, c'est un 5 étoiles à minima.
Évidemment.
Et si c'est sur 5, et à 10 étoiles, si c'est sur 10, et un 20 sur 20, si c'est sur 20, un 100% si c'est sur 100, je m'emporte.
Emporte-toi. Mets un pouce bleu, frère.
Emmenez-moi au bout de la terre.
Là, il chante.
Voilà, là, j'avais envie de chanter.
Voilà. Jean-Michel, pas à propos. Ou alors, vous pouvez nous aider à financer ce programme via Tipeee pour payer l'hébergement du site et de nos pizzas.
C'est vrai.
Il faudra les commander. Mais je m'égare donc, je laisse le micro à Brice.
C'est vrai.
Projetons-nous en 1982.
Ah.
Une adaptation d'une pièce montée en 79 par la troupe du Splendid va apparaître sur le grand écran. Le pitch du Père Noël est une ordure. Pendant le réveillon de Noël, on ne s'ennuie pas à la permanence téléphonique de l'association SOS Détresse Amitié. Pierre et Thérèse en poste ce soir verront défiler Monsieur Preskovitch, leur voisin bulgare, Katia, le travesti dépressif, Josette et Félix, un couple un petit peu mytho, sans oublier Madame Musquin, la présidente coincée de l'association et coincée dans un ascenseur. Ce coup-ci, Patrice Lecomte cède le siège du réalisateur à Jean-Marie Poiret, qui a dirigé Josiane Balasco à deux reprises, dans Les Petits Câlins en 77 et Les Hommes préfèrent les Grosses en 81. Le film diffère pas mal de la pièce où Madame Musquin n'apparaît pas, où Monsieur Preskovitch est plus dépressif qu'excentrique. Le film fera à peu près le même score que Les Bronzés font du ski. Il se placera en 22e position du box-office de cette année. Allez, un petit top 5 puisqu'on n'a pas fait de top 5 pour la nouvelle année. La Balance en 5, film de Nathalie Baye et Richard Berry, dont personne n'a jamais entendu parler, mais qui aura le César du meilleur film.
Mais quoi, ça vous dérange, Richard Berry qui gagne un César du meilleur film? Qui s'est chié sur le torse.
Le Gendarme et les Gendarmettes. En
toujours 4. Présent, Gendarme et Gendarmettes.
Ouais. Mais ils sont nuls, le pire, c'est ils sont vraiment nuls, hein, par rapport aux autres.
2h moins le quart avant Jésus-Christ.
Ah
en 3.
Oui, celui-là, il est tellement.
L'As des As en 2. Et en premier.
Un petit film.
Un tout petit film que personne ne connaît, E.T. l'extraterrestre.
L'histoire d'un...
E.T.
L'histoire d'un proctologue intergalactique. Un petit peu tendancieux avec les enfants. J'ai mon doigt qui s'allume. C'est très pratique.
Et qu'il n'a pas de secrétaire.
Oui.
Parce qu'il téléphone maison.
Mais est-ce téléphone
que, est-ce
maison.
Que ton papa a plus de 40 ans? J'ai un truc pour lui.
On notera tout de même que cette place est peut-être à rapprocher de la, campagne promotionnelle du film qui a été un petit peu amputée par la RATP et la ville de Paris, qui ne voulait pas des affiches à cause du titre un petit peu trop problématique. Même si le film est sorti en août.
Voilà, tout simplement. Et après Le Père Noël est une ordure, la troupe se retrouve pour un dernier film, un dernier film pour moi, en 83, qui adapte une pièce créée par Christian Clavier, qui s'était un peu isolé du reste du Splendide, parce que tous les membres s'étaient un peu... avaient vagué.
Laurent Wauquiez. Mon Dieu, quelle horreur.
Vagué à des occupations diverses de chacun de leur côté. Et Martin Lamotte qui avait aidé à faire cette pièce aussi. Ça visait un peu, le principe c'était de viser la réunion de deux générations de comiques. La jeune génération, qui à l'époque c'était la troupe du Splendide, les jeunes, mais également Jacques Villeray, Roland Giraud par exemple. Et la vieille garde. Alors, la vieille garde, c'était qui? On en parlait tout à l'heure, des De Funès, Galabru, Jacqueline Maillan, Jean Carmet, vraiment tout ce qui était de la génération d'avant. On y retrouve à la réalisation d'ailleurs le même Jean-Marie Poré du Père Noël est une ordure, que Clavier retrouvera 10 ans plus tard, après dans Les Visiteurs. L'histoire, c'est Elena Bourdel, dite la Bourdel, une célèbre cantatrice française. Alors là, j'ai pris Wikipédia direct, je ne me suis pas fait chier, je tiens à vous le dire. Je m'excuse.
C'est un scandale, monsieur le Cabache.
Et l'épouse du maestro André Bourdel, ce dernier engagé dans la résistance française, est tué accidentellement par l'explosion d'une grenade en juin 1941. 2 ans plus tard, la famille Bourdel, qui est aussi composée du père d'André Bourdel, connu sous le surnom de Papy, voit son luxueux hôtel particulier parisien investi par les forces allemandes, leur domicile devenant la résidence du général allemand Hermann Spons, transféré du front de l'Est. Alors qu'elle se plaint à la commandanture des excès commis par l'arrivée des Allemands chez eux, Madame Bourdel, accompagnée de ses deux filles et de leur locataire Michel Taupin, aide par hasard un aviateur britannique à s'évader et sont ensuite obligés de le cacher chez eux. Bref, si la critique a descendu le film, parce qu'honnêtement, ils n'étaient pas très pour, ça faisait un peu un truc commercial à la française, quoi, du coup. Ce film dédié à Louis de Funès, oui, parce qu'il devait avoir le rôle de Papy ou celui de
Denis Hitler. Oui, c'est vrai.
A eu un beau succès public avec 4 millions d'entrées et surtout un passage au fil des années au rang de film culte. Donc, par contre, là voilà, on va rester là-dessus parce que je ne me vois pas vous parler de Les Bronzés 3 Amis pour la vie, sorti en 2006 parce que je tiens à ce qu'on reste un peu amis, tous.
Oh là là là.
Et réalisé par le même Patrice Lecomte. Et je ne vais pas en parler parce que c'est comme ça. C'est
quelle tout. Horreur, voilà. Quelle horreur. Et oui, c'était franchement nul.
Je ne l'ai pas vu, j'avoue. Je crache sur un film que je n'ai pas vu.
Je l'ai vu.
Je l'ai vu aussi.
Je l'avais vu et...
C'était dispensable.
Si vous voulez en parler, allez-y. Mais
moi... non, c'est dispensable.
Voilà. Non, mais c'était très... très cliché. En fait, c'est un peu comme, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait au bon jeu, quoi. C'est les trucs où... En fait, les comédies classiques de Christian Clavier. D'ailleurs, récemment, je ne sais pas si vous avez vu passer, c'est sur X, sur Twitter. Ce mec, il y avait en 2020 ou je ne sais pas quoi, qui avait fait un tweet en disant « Ouais, j'ai une idée de scénario à la con d'un film de Christian Clavier, un truc sur les gilets jaunes ou je sais pas quoi. » Et récemment, le mec a ressorti son tweet parce qu'il y a un film avec Clavier genre qui sort avec Bourdon. C'est exactement ce que le mec avait prédit. Parce que le mec a dit « Mais on est tellement nuls en scénario en ce moment dans les comédies françaises, génériques on va dire, qu'on te met toujours du Bourdon, du Clavier, une affiche en bleu avec des écritures en jaune. » Et c'est toujours, en gros, une espèce de d'opposition entre des classes sociales ou autres, tu vois. Et en fait, le mec a eu ce truc qui est ressorti. Et là, tu fais, ah ouais, mais c'est toujours pareil, en fait. Et Les Bronzés 3, ils commencent un petit peu à surfer sur cette caste du politiquement incorrect. Genre, par exemple, on a le fils, d'ailleurs, de Gérard Jugnot, qui joue le fils de Gérard Jugnot, littéralement, dans le film également, qui annonce ce qui fait son coming out avec un Gérard Jugnot qui pète un plomb. Mmh. On a une Marianne Chazelle avec des énormes seins siliconés, qui est mariée à Jean-Claude Duss, qui a réussi aux États-Unis en tant que coiffeur, qui s'appelle Jean-Claude Duss. Je crois qu'ils sont dans le club qui appartient à Popeye, du coup, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin. Et en fait, on s'ennuie vite, quoi. Le côté irrévérencieux du Splendide est vite passé. On sentait en fait que c'était vraiment. C'est même pas du fan service, c'est qu'en fait, ils ont cherché à essayer de faire comme ils ont fait en fait, dans les années 70 et 80. Et en fait, c'est raté parce que je pense qu'avant eux, d'autres l'avaient fait et d'une meilleure façon. Et que la vague nostalgique, en fait, elle l'a pas fait. Et c'est un peu comme la suite des trois frères, où au final, quand vous regardez la suite des trois frères, elle est exactement gaulée comme le premier au final. Sauf que bah, du coup, vous n'avez pas le charme du premier, et puis les personnages sont moins attachants parce que bah, c'est pas la même, c'est la même aventure quasiment. Quoi, donc,
Et puis on retrouve le même problème dans les comédies que l'on peut retrouver dans des films d'action qu'on refait oui. ou qu'on fait remake. C'est-à-dire que la patine nostalgique, à part mettre quelques références, voir des acteurs, des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps,
ouais,
ça fait plaisir pour le côté à la limite. Revoir le personnage de l'acteur, le clin d'œil, mais en vrai ça fait pas un scénario, ça fait pas un bon film, pas une bonne blague non plus d'ailleurs.
Non.
Donc en vrai,
il y a peu de suites, on va dire, de
bah, surtout les 20 ans plus tard, voilà, surtout longtemps après, je ça ne s'adresse pas au même public quand les films comme Les Bronzés, enfin tous les films du Splendid qu'on a évoqués ce soir, ont eu du succès pour nous qui ne les avons pas forcément vus à l'époque de leur sortie. C'est des multidiffusions télé, des blagues en récré ou en cours, etc. Des références communes. Là, honnêtement, les derniers films, d'abord, faut-il encore avoir des rediffs parce que vous regardez plus trop la télé, on regarde du streaming, Netflix, machin, etc. Donc difficile de parler du même film à machine à café, quoi.
Oui, c'est vrai.
Déjà. Et puis deuxièmement, la vague nostalgique et l'effet de répétition et de connaître par cœur des répliques, etc. Ça le fait pas.
Il y a peu de suites. Tu vois, Top Gun, la suite de Top Gun, j'ai trouvé qu'elle était très bien. Par exemple,
je l'ai aimé en tant que film en lui-même.
C'est une vraie suite en fait.
C'est une vraie suite.
C'est pas, je vais refaire la même chose.
Voilà.
Quoi. C'est pas. Il y a des petits clins d'œil, des petits machins, mais c'est une histoire différente. C'est pas le même rôle.
C'est différent, mais il y a peu de suites. J'ai trouvé aussi. Après, il y a des suites. Les Jumanji où ils ont essayé de renouveler le concept avec plus ou moins de succès. Le premier opus de la nouvelle version était amusant, puis après c'est un peu toujours pareil. C'est toujours des redites. Là, j'ai vu qu'ils vont faire adapter la série L'homme qui tombe à pic. Avec Ryan Gosling, The Fall Guy, tu vois. Bon, vu qu'on a fait l'épisode, l'avant-dernier épisode, c'était sur le Shérif et moi peur, avec les adaptations qu'ils avaient faites avec comment il s'appelle, Sean William Scott et Johnny Knoxville. Donc, c'est des adaptations qui sont pas forcément très, très bien faites. Et effectivement, j'ai vu la balance de L'homme qui tombe à pic. J'avoue que j'ai un peu peur. Là, il y a la suite de Beetlejuice qui va arriver.
Beetlejuice.
Et pareil, tu vois, je suis à la fois content de revoir Keaton qui reprend d'ailleurs en ce moment ses vieux rôles, hein, Batman et tout ça. Et en même temps, tu vois qu'il y a le côté on veut surfer sur une vague qui se comprend, Jenna Ortega, parce qu'elle a joué mercredi, que je n'ai pas vu d'ailleurs, et que c'était bien. Donc, du coup, forcément, on la met en. Elle serait parfaite dans un rôle.
Elle a surtout joué dans la reprise de Scream.
La reprise de Scream, voilà. 6, ouais. Donc, mais après, comment penser, c'est les suites de Ghostbusters, tu vois. J'ai trouvé le côté très nostalgique, fan service de ouf, quand tu revois. J'ai oublié le nom de l'acteur qui est décédé des Ghostbusters.
Aramis.
Harold Ramis. C'est l'effet nostalgique qui, moi, à la limite, m'avait tiré l'alarme en disant putain, c'est cool de le revoir et tout. Là, il y a une suite qui va arriver. Ouais, bon, je suis pas hypé par la suite, tu vois. J'ai vu la bande-annonce et tu vois la bande-annonce et tu fais ouais, ça a l'air sympa, mais c'est pas. Je le verrai sans doute, tu vois. Mais si je le vois pas au ciné, c'est pas grave, tu vois. Avant d'entamer, du coup, on va déguster du coup la Klug et avant d'entamer, on suivra. C'est quoi ? Je vais vous diffuser un petit extrait de 2 minutes, le temps qu'on ouvre notre bière et qu'on vous parle de celle-ci. C'est un extrait donc du Père Noël est une ordure. Dans laquelle on voit toujours nos acteurs, donc Gérard Jugnot, Marion Chazelle, Christian Clavier et Thierry Lhermitte. Hop là, c'est parti.
Passe devant !
Félix !
Chouchou, viens avec moi !
Non, je viendrai plus jamais avec toi !
Bien alors, Félix, c'est grotesque, lâchez ce jouet !
Bien alors, méfiez-vous, ça n'est pas un jouet.
Monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Moi, je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis au bout du rouleau, je vais m'en aller. Hein, je vais m'en aller.
Ta gueule, Miss Monde, tu bouges pas, tu restes là. Chouchou, je te préviens, la prochaine, c'est pour toi. Si tu me suis pas, je te tue.
Je préfère mourir de suite que de repartir avec toi, gros.
Mais déconne pas, Josette. Je vais tirer dans la grosse.
Ah, non, mais ça va pas bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber dans cette maison de fous, hein? Mais pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein? Je parle pas pour moi, mais t'en es prenez Thérèse, par exemple.
Non, c'est Chouchou, je veux, pas la moche.
Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile.
Réplicule qu'on s'est tous répété.
Et puis Thérèse, elle est trop intelligente, elle appelle l'école d'assistance sociale.
Va t'asseoir, le tromblon. Alors attention maintenant. La maison, ça fait plus que le drôle de Migros. Chouchou, viens avec moi ou je te bute. Ou je bute tout le monde.
Eh ben, tu as qu'à buter tout le monde, moi je m'en fous.
Bien. Alors, Josette, si vous ne prenez pas un peu sur vous, nous n'en sortirons pas. Finalement, Félix était un garçon charmant, certainement bourré de qualité. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous.
Oui, ça écoute, Josette, dans la vie, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour prendre ses aises et il y a un temps pour prendre sur soi.
Allez, hop, du balai.
Oh, mais dedans, j'ai très bien compris votre petit manège, là, tous les deux, hein. Vous voulez vous débarrasser de moi? Eh ben, merci beaucoup, Thérèse.
Mais ne comptez pas sur eux, Josette, les rats quittent le navire, hein.
Ça, t'as bien raison, c'est tous des rats. Il n'y a que toi qui es courageuse.
Écoutez, vous n'allez tout de même pas oser tirer sur une femme qui porte la vie.
Pousse-toi à toi.
Écoutez, vous n'aurez pas le cran de faire une chose pareille. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a des milliers comme vous. Physique abjecte, mais bon fond. Donnez-moi ce revolver, Félix. Et tout sera tellement plus simple. Vous n'êtes pas une ordure, n'est-ce pas?
Mais là, c'est un gros con.
Ah, il m'a niqué le pied. Il m'a niqué le pied.
C'est encore être de ma faute, tu vois ça là.
Donc voilà, je crois qu'il y a un personnage qui meurt dans le film de mémoire, je crois. C'est celui, je crois, ouais, c'est celui-là.
Oui, il y en a un qui meurt, oui, il le découpe à la scie.
Il le jette aux eaux. Ouais, c'est le livreur, c'est pas le livreur, le réparateur d'ascenseur.
Ah,
putain, oui.
Ah ouais, je pensais que c'était Clavier, du coup, le personnage de Clavier. Et donc, on a sur. On a donc ouvert notre bière, où on a failli l'ouvrir avec une agrafeuse. Très The Office, épisode qui va suivre notre épisode spécial Noël, d'ailleurs. Donc,
Spoiler alert.
Donc, on est sur une bière de chez donc Sainte Crue, qui s'appelle All I Want for Christmas is Klug, qui est une Belgium Double Cookie Style. Sur l'étiquette que vous verrez en photo, on peut voir monsieur. Comment il s'appelle ? Petrovski. Monsieur Petrovski qui tient en fait un espèce de monstre en fait, un peu dégueulasse, avec le Klug. Et donc c'est une bière qui est fabriquée avec eau, malt d'orge, avoine, sucre candy, grué de cacao, vanille, levure, houblon, fève tonka. 7,5% ABV dans une bouteille en verre de 33 centilitres. L'étiquette est très jolie. J'aime beaucoup. Donc voilà, on est sur une couleur très très ambrée, qui est plutôt sympa. On a un nez très
chocolat.
Cookie. Oh, très chocolat, très cookie, ouais. C'est assez ouf. Belgian Double, donc ça veut dire que théoriquement ça a du corps, si
c'est utile.
Ça a de la cuisse, ça a du retour, comme ils disent. Non, ça a du corps, donc à voir. Brice s'empresse de boire sa bière au Dragibus, du coup.
Oui, en fait, elles sont très bonnes, cette Klug.
On reste sur le sucré, tu vois, on a pris des bonbons, maintenant on prend des cookies, après on va prendre une pizza. Mais,
Oh yeah. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. C'est très engageant.
En goût, c'est très bon. Hein. C'est assez doux, c'est assez rond. Ça a du corps, mais je m'attendais à un truc qui te matraque plus en tant que style belge, c'est-à-dire où tu sens le côté alcooleux. Et finalement, là, je trouve que c'est assez doux. Et moi, je suis pas fan à la base, tu vois, des bières belges en général. Enfin, j'aime bien les bières belges, mais je suis pas fan quand elles sont trop alcooleuses, tu vois, trop liquoreuses dans leur style. Et là, je trouve que ça va, tu vois. C'est.
Elle est à 7,5.
Je pense que le sucre candy doit jouer un petit peu, tu vois, sur le côté la fève, la vanille, sucré, tout ça, voilà. Ouais. C'est bien fait. C'est pas écœurant parce que tu peux penser justement dans des bières souvent qui utilisent un peu trop de vanille, la fève tonka, tous ces trucs-là. Alors la fève tonka, ce don pour moi en général, d'adoucir beaucoup plus les choses et de rendre les choses un peu moins écœurantes que si tu mets trop de vanille, voire de l'arôme un peu de vanille, ça fait un côté un peu trop chimique ou normand qui je pense va un petit peu être un peu compliqué à peinter, du coup le terme peintable. Mais non, c'est une bière qui est plutôt réussie, je trouve, hein. Moi j'aime beaucoup, ils ont fait un truc sympa. Voilà, on a une belle mousse, la Brice vient de se servir donc un verre là, du coup on a une belle mousse persistante, tu vois, elle est bien, elle est jolie, c'est bonne carbo. Non, c'est plutôt.
Il y a des lardons.
Il y a des lardons, de la pancetta. Très très bonne, du coup. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du coup de. Je dis beaucoup du coup, et c'est une faute de langage d'ailleurs. Mais je vous parlerai de concours millésime bio auquel j'ai participé justement. C'était assez marrant. Et du coup, tu vois, c'est terrible ce type de langage. et je pourrais vous. Ça fait typiquement partie du type de bière, je pense, que j'aurais pu avoir dans la catégorie que j'ai testée.
Elle est carrément bonne.
Elle est très très bonne, franchement. Elle se boit très très bien. Et donc, rien à voir avec le Père Noël est une ordure, mais pour faire suite à le récit que je vous avais fait de Cosquer, j'ai présenté du coup avec ma compagne Elodie une présentation sur l'archéologie de la bière. Donc, précision quand même avant, moi je ne suis ni archéologue ni historien. Ma compagne saura mieux que moi vous expliquer les choses en détail, mais
l'idée n'est pas là.
Mais
oui.
Elle n'est pas là.
Non,
mais,
on a ce qu'on a.
Et on a ce qu'on a, c'est moi, désolé. Non, l'idée était un peu de vous situer un petit peu l'histoire de la bière dans les grandes lignes, sans aller dans les détails, mais il y a des sources que je pourrais vous citer ensuite. Juste parce que la bière, en fait, on entend un peu tout et n'importe quoi sur son origine. Il y a des gens qui vont croire que la bière a été inventée par les Belges et les Allemands, ce qui n'a rien à voir. Là, des fois, on va vous dire que ça a été inventé en Mésopotamie uniquement, sauf qu'en fait, on n'est pas super sûr. Donc du coup, c'est quand qu'on a vraiment... de quand date la première vraie trace de bière ? Pour l'instant...
Sur mon pantalon, je sais pas.
C'est ça. Non, mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que l'archéologie avance toujours, hein, y a toujours des nouveautés qui sortent. Hein. C'est en Israël, donc pas le meilleur endroit sur Terre pour aller en ce moment, mais dans une grotte en Israël, donc de Rakfet, et c'était le peuple des Natoufiens, de mémoire, qui, dans une grotte, on a découvert en fait des traces archéologiques de bière. Non, des Natoufiens. Ils avaient, je sais pas s'ils avaient un ou deux sourcils.
Ah, fiens.
Fiens.
Ni fions. Tu vois, c'est autre chose.
Je ne sais pas.
Fions, j'avais bien compris que c'était pas ça.
Archéologiquement, on ne sait pas combien de sourcils avaient ces gens. mais je rappelle qu'Eric, en plus, est d'origine arménienne, ce qui est d'autant plus drôle. Mais il a deux sourcils. Alors que Monsieur Petrovski, lui, on pourrait croire qu'il en a qu'un, hein, selon.
Ouais, clairement. Sur l'étiquette.
Sur l'étiquette, il en a deux, mais dans le film, je crois qu'ils lui ont fait un gros mono sourcil, un truc comme ça. Ouais. Et donc c'est une trace donc qui date de 13 000 ans avant notre ère. Donc c'est une trace apparemment de, je crois, de libation funéraire. Donc en gros, c'est dans des, on a trouvé donc des traces de en gros qui seraient apparentées à de la, ce qu'on appelle de la bière archaïque. Et je vais venir peut-être des, comment dire, des amphores ou des pots qui avaient été laissés donc dans le cadre de.
Ils n'ont pas fini leur verre.
Exactement. Non, mais dans le cadre de cérémonies funéraires, dans lesquelles on faisait de la libation, donc c'était des offrandes, etc. Ce serait théoriquement, là, pour l'instant, la trace la plus ancienne qu'on ait. Donc, ce qui fait que ça fait quand même un sacré bond, puisqu'à une époque, on était plutôt, je crois, aux alentours des 8000 et quelques, et au final, on fait un basculement jusqu'à 13 000 ans avant notre ère. Donc, comment serait née la bière? Donc, Kesako, je lui dis la bière archaïque. En gros, on parle de bière archaïque, c'est une boisson fermentée, et on a encore un peu de mal, en fait, à savoir est-ce que ça peut être du lait, du vin ou de la bière. En général, quand on va trouver des traces de céréales, c'est plus de la bière que ça peut être du lait ou du vin, évidemment. Mais la naissance de la bière en elle-même, on parle plutôt sur un accident heureux qui a été peut-être fait à plusieurs endroits différents. Parce qu'au final, c'est quoi la bière? C'est simplement de quelque chose qui a fermenté. C'est de l'eau qui allait sur des grains et qui a fermenté. Donc ça peut être très bien. Comme le dit le fameux documentaire Et comment la bière sauva le monde, documentaire québécois. Très fun à regarder, mais un petit peu exagéré, dans lequel en fait, on se dit, ben voilà, il y a un mec, il avait une amphore, il y avait des grains dedans, il avait récolté des grains, ça fait de l'eau, puis oh, ben c'est bon, tu vois. Donc ce serait un peu né là. En fait, la bière, elle a suivi, si vous voulez, un peu tout l'exode en fait de l'Homo sapiens, qui petit à petit a peuplé le monde entier en fait. Donc les traces écrites de bière pour l'instant. Les plus anciennes, ça remonte plutôt à l'époque mésopotamienne, justement, d'où le fait que beaucoup de gens vont parler de la Mésopotamie pour parler des origines de la bière. On a trouvé des traces de tablettes sur lesquelles c'est plus des factures, en fait, des trucs comptables. Donc, déjà à l'époque, c'était chiant. Voilà, c'était Jean-Louis,
c'était les taxes.
Doit, tant de trucs, voilà. Donc, c'était un peu ça. Et la vraie, vraie, vraie recette ancienne, pour l'instant, qu'on a découvert, c'est sur cette fameuse tablette de Ninkasi, donc la déesse de la bière. C'est en fait une chanson dans laquelle, en fait, quand on une tablette cunéiforme, dans laquelle, quand on décrit les paroles, quand on traduit les paroles, pardon, on s'aperçoit que ça décrit littéralement la recette. Alors, pas à l'exactitude, hein, on ne sait pas quelles sont exactement les quantités qui sont mises dans le brassin. Mais ça a permis, par exemple, à des brasseries comme Anchor Brewing à San Francisco de créer une bière en corrélation avec ce truc. Ninkasi, brasserie très connue à Lyon, qui en a fait également du coup son icône. Comme vous voyez sur le logo Ninkasi, on peut voir les représentations de cette fameuse tablette. Et donc après voilà la bière a suivi un petit peu le mouvement de bah, de l'homme dans son évolution. Alors il y a beaucoup de son évolution, je veux dire en termes de conquête de territoire. Hein. Je parle pas d'évolution genre ça je peux ça. Dans tous les pays en fait on s'aperçoit, enfin dans toutes les zones dans lesquelles l'homme est allé, la bière est différente selon les pays. Évidemment on fait pas de la bière toujours avec la même chose. Chez nous ça va être de l'orge en Europe. En Chine, en Asie, tout ce qui est Asie, tout ça, ça va être plutôt du riz. Dès qu'on va sur l'Amérique du Sud, c'était ce qui était Amérique, c'était le maïs, oui, par exemple, vrai. Le sorgho pour l'Afrique. Donc en fait, à chaque fois, on a trouvé la céréale en fait qui permettait de faire la bière. C'est pour ça qu'on ne sait pas exactement est-ce que c'est une source qui s'est diffusée ou est-ce que c'est plutôt un peu tout le monde qui à un moment donné s'est dit tiens, on peut manger un truc comme ça, c'est parce que c'est une source de d'apport nutritif, puisque à l'époque la bière c'était pas un truc où on boit des coups et on va picoler pour oublier notre journée de merde, c'était plutôt un apport nutritif, et notamment les ouvriers égyptiens qui ont construit les pyramides, c'était pas les aliens, scoop,
merde,
ont été notamment rémunérés avec de la bière.
Mais du coup pardon, du coup je m'étouffe. est-ce que ça existe encore des bières au maïs, des bières au riz, ou est-ce que tout le monde est passé à l'orge au malt?
Non. Quand tu vas aux États-Unis, notamment, tu as certaines bières qui sont faites à base de maïs encore.
D'accord.
Quand tu prends des bières, Tsingtao, la fameuse bière que tu vois dans tous les restaurants asiatiques, c'est une bière qui est faite à base de riz, par exemple des lagers, des rice lagers. Aujourd'hui, en France, tu vas avoir beaucoup de rice lagers qui sont faites en Camargue, puisque ben on a une grosse culture de riz en Camargue. Et les bières de mil et de sorgho sont pas trop répandues aujourd'hui en Europe, enfin en Occident, mais elles sont très prisées en Afrique. Alors je crois que c'est parce que c'est très compliqué de faire venir du sorgho en Europe, enfin en tout cas dans tout ce qui est Occident. Donc du coup, ça reste assez cloisonné au final. Mais il y a des très belles brasseries comme Kweza en Rwanda qui font des bières au mil et au sorgho. Okay. Et ce sont notamment des bières qui sont très intéressantes parce que elles ont gardé ce côté, si tu veux, ancestral qu'avaient justement les ancêtres des bières archaïques, quoi. Parce qu'elles sont toujours bues souvent en quantité dans des espèces de gros seaux avec des pailles. En fait, c'est un truc. C'est pas comme on dit Covid friendly, tu vois. Mais c'est toujours garder cette tradition. Et surtout, ce sont.
Une référence tellement 2020.
C'est clair. Et surtout, ce sont des bières dont les recettes se passent en général de mère en fille, puisque c'est toujours dans beaucoup de tribus encore en Afrique, les femmes qui brassent. Mm-hmm. Et donc, les recettes se passent. Notamment, je parle de recettes, mais par exemple, tu as les souches de levure qui sont parfois sur des colliers sur lesquels tu as des os, par exemple, et tout. Les levures sont dessus et qui se passent de génération en génération, en fait. Ça aussi, c'est un truc qu'on a découvert, notamment chez les Scandinaves, où on a trouvé beaucoup de traces de ça, tu vois. Et donc, pour revenir un tout petit peu en arrière sur ce que je vous disais, donc sur l'évolution de l'homme à travers les territoires, pour conquérir tous les territoires du globe, il y a un débat où j'ai déjà entendu des gens dire ben, le fait que l'homme ait découvert la bière, c'est ce qui fait que l'homme s'est sédentarisé. Alors en fait, c'est pas vraiment ça. Hein. L'homme s'est pas sédentarisé, si vous voulez, parce qu'il a découvert comment faire la bière et qu'il fallait cultiver du grain, puisqu'il y avait des chasseurs, cueilleurs, et comment on dit à Cosquer, chasseurs, cueilleurs, récolteurs, je crois, on m'avait dit, le terme exact, qui pouvaient très bien fabriquer des types de bières archaïques sans pour autant être sédentaires dans des villages. La sédentarisation, c'est fait pour d'autres raisons, en fait. C'est un débat ouvert, hein, mais moi personnellement, je ne crois pas que la sédentarisation est à cause de la bière. La bière n'est pas la cause positive de tout ni négative de tout, hein, on va dire. Mais voilà. Après, par exemple, en Égypte, je parlais en Égypte, la bière était quelque chose qui était fabriqué des fois dans les foyers, mais c'était aussi quelque chose qui était fabriqué aussi dans des brasseries. On a découvert récemment en Égypte toute une unité de brassage qui était faite notamment par des femmes et contrôlée par des hommes, puisque les bières sont fabriquées à la base par les femmes.
C'est tellement de... Non, pardon.
c'est tellement woke. Eh oui, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on a trouvé des artefacts et tout ça. On voit des femmes brasser. On a des hiéroglyphes. On a des petites statuettes. On a plein de choses comme ça. Pour revenir un peu dans notre région, donc, on a un site près de chez nous à Marseille qui s'appelle Rock Pertus, dans laquelle on a trouvé des endroits sur lesquels ils fabriquaient de la bière dans cette zone-là. On n'est pas encore sûr, je crois, à 100%, mais a priori, c'est une zone sur laquelle on fabriquait de la bière. Et notamment la brasserie La Baroud qui fait une bière qui s'appelle la Rock Pertus, justement, en hommage à cela. Voilà. Après, voilà, la bière a évolué avec son temps. Effectivement, c'était considéré comme un truc de barbare hein, par les Romains. Donc nous, les
alors que maintenant, la bière, c'est un truc de bar.
Voilà, c'est de tout. Bar. Donc qui était eux plutôt orientés sur le vin, bien que c'est pas eux qui ont emporté apparemment le vin en Europe. Hein, on faisait déjà du vin avant eux. Donc et après, effectivement. La bière est l'histoire de la bière, c'est très très large puisque en fait elle a évolué différemment dans les zones comme l'Asie, l'Amérique, l'Europe en fonction justement, je vous disais, bah, de la conquête de territoire qu'avait fait l'homme. Après, on a eu effectivement la bière au Moyen Âge où c'était plus une vertu qu'autre chose parce que ça permettait de pas tomber malade. On a eu les fameux Hellwives dont j'ai parlé, je crois que c'était pour Halloween quand je faisais les mentions entre les sorcières de Salem et tout ça. Et puis après, on a eu cette industrialisation de la bière qui s'est faite finalement assez rapidement, au moment où on a commencé un petit peu à piger qu'on marchait les trucs comme le charbon, tout ça. Et c'est à ce moment-là que les hommes, et donc le patriarcat, hein, pour revenir là-dessus, a pris le dessus sur le travail des femmes. Et donc, on est allé sur une bière qui est beaucoup plus industrialisée. Et, pardon, la Seconde Guerre mondiale a entraîné les fameux oligopoles que l'on connaît. Et aujourd'hui, on est sur un ancien cycle, hein, on repart sur des petites brasseries. Donc, on est à 2500 brasseries en France. Excusez-moi. Et je vais aller retrouver mes ancêtres. Et,
ça a l'air appétissant, tout
exactement.
Ça.
Exactement. Bah, tu voudrais manger préhistorique, c'était très sympa. Du coup. mais voilà, ça, on est sur un nouveau mouvement maintenant avec d'autres oligopoles qui vont se créer. Mais justement... Est-ce que du coup l'archéologie, donc là j'ai vraiment fait les grandes lignes parce que je suis pas du tout archéologue ni historien.
Nous non plus, ça tombe bien.
Voilà, mais
on va pas te contredire du coup.
C'est, l'idée de ça, c'est plus vous dire parce que j'espère, en tout cas, mais peut-être, hein, peut-être avoir été ou trop vague ou peut-être avoir fait peut-être une coquille, ce qui peut arriver malheureusement. L'idée, c'est d'utiliser le truc en vous disant voilà, l'idée c'est de faire.
Intéressez-vous au sujet.
Intéressez-vous au sujet parce que au-delà du fait que ce soit un liquide qui est très cool, il y a une vraie histoire, mais une histoire qui est gigantesque en fait.
Et ça peut donner des idées aussi pour faire des.
Bah, regarde, on a fait le gruit.
Bière au maïs.
Bière au maïs. On a fait le gruit au poireau avec Antoine. Ouais. Encore Brewing, donc je veux mentionner, qui a fait ça. Et on a une brasserie qui s'appelle Beer Cerc, qui est en Ardèche. Valentin de chez Beer Cerc, qui est un ami d'un gars qui s'appelle David, qui a ouvert la brasserie de Mars. Pour ceux qui sont sur Marseille, qui nous écoutent près de la Timone.
Faut qu'il fasse une bière et qu'il l'appelle. Il les a vus.
David Mars.
Ah, oh.
David Mars, David il Mars, les a vus.
Ah oui, oula, ouais, oh, j'y étais pas du tout, pardon. Excusez-moi.
Donc, en même temps, c'est connexion des années 70 aussi.
C'est vrai. Mais Beer Cerc, du coup, qui fait beaucoup de gruit, qui a créé le festival Fête du Gruit, auquel on avait participé à la Beer Academy l'an dernier avec la brasserie In Taberna. Feu In Taberna, nos compagnies In Taberna qui ont malheureusement fermé entre temps. On a un gars en Ardèche, donc le nom m'échappe, qui fait de l'archéo purement expérimental, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il est vraiment il essaie d'utiliser les outils. Les vrais outils ancestraux pour fabriquer de la bière.
C'est marrant cette vague-là, parce qu'il y a des expériences comme ça, même en termes de reconstruire un château médiéval avec les outils d'époque. Quand je suis allé l'été dernier au Mont-Saint-Michel, la guide nous a présenté un château qui était en train d'être reconstruit ou qui venait d'être reconstruit avec les méthodes au sud de Paris, je crois, au sud d'Orléans, je ne sais plus exactement où, et qui se visite. Et donc, c'est des projets à la fois... mi-archéologique, mais pas vraiment, vu que c'est des nouvelles constructions, et mi-scientifique, parce que ça, c'est une archéologie des savoir-faire, en vrai.
C'est
super intéressant, et j'imagine que pour la bière, ça doit être le même délire. Quoi.
Surtout, je pense aussi, tu vois, il y a ce côté où, pendant des années, tu vas sur RMC Découverte, on te met des reportages avec des mecs qui te disent que c'est des aliens qui ont fait tel ou tel truc.
Alors, moi, je ne suis jamais allé sur RMC Découverte, voilà. Sur Mars d'ailleurs, mais pas sur RMC Découverte.
Tu vois. On te dit que c'est des aliens qui ont fait tel ou tel truc, et tu te dis, mais... quand tu vois à quel point c'était magnifique, la Grèce antique, le Rome antique et tout ça, tu dis, on était capable de faire des trucs comme ça, tu vois. Mais du coup, l'archéo-expérimental, je pense que peut-être c'est ce genre de reportage un peu à la con a dû en motiver certains en disant, putain, ça me casse les couilles qu'on dise ça, tu vois. Il y en a qui se sont mis à produire ça, puis t'as le côté des gens, en fait, les médiévistes et tout ça, qui se prennent le kiff de retrouver en fait le savoir-faire ancien, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on est dans la modernité. Les immeubles sont tous un peu les mêmes au final, hein, c'est à celui qui va faire le truc le plus carré ou le plus rond selon la mode, un peu le truc tu vois, t'as pas, tu vois, les ornements que tu vois, enfin on pourrait faire demain si on veut du haussmannien, mais tu fais plus de haussmannien en fait.
Le décoratif a été remplacé par l'usage.
Voilà.
Il faut construire de plus en plus de volume dans un
petit
espace dans un rapport investissement retour sur investissement qui est défini avec des normes qui tout l'argent bouffé par les normes à la fois de surface pour les accès handicapés,
oui,
de nombre de places de parking pour l'urbanisme.
Alors qu'il suffit de mettre des clous.
Et passage clouté, on appelle ça.
Voilà. Toutes les normes d'isolation, etc. Exact, ouais. Thermique, tout ce que tu veux. Mais tout l'argent mis dans ça.
Et oui, oui, du coup,
dans
ça
dans le fait de devoir vérifier que c'est bien mis. Il n'y a pas que le fait de le faire. Un plombier qui utilise certains matériaux, ou un électricien, ou un gars qui fait les fenêtres, etc. Il faut vérifier que c'est bien fait. Donc il y a aussi des normes et des gens qui contrôlent ces normes, des experts.
Exact.
Donc,
oui, mais c'est
tout s'accumuler. Plus après tout ce qui est taxation, etc. Ben, au final, une fois que tu as mis la fenêtre qui va bien, le mur qui va bien et la ventilation qui va bien,
quand on te dit pas, mais il faut mettre du PVC, vous pouvez pas mettre du PVC, il faut mettre que du bois, alors que tous les autres, j'ai eu ça, je connais des gens qui ont eu ça. Tu vois.
Voilà, donc au bout d'un moment, tu mets pas de l'argent dans le décoratif en vrai.
Exact, voilà. Et du coup, c'est vrai que ce côté archéologique, semi-expérimental ou totalement expérimental, alors tu as justement des gens qui vont le faire sciemment, comme ce monsieur Arnèche ou Bierserk, qui vont pas forcément chercher à avoir l'aval de scientifiques, pour le faire, qui vont juste s'amuser à le faire par rapport à des recherches et qui vont s'éclater à le faire. Quand on a fait le gruit, le premier gruit, c'est avec du pain de date qu'on l'a fait. Par exemple, on est parti sur une recette égyptienne. Enfin, en tout cas, supposément basée sur des recherches qui ont été faites sur que brassaient du coup les Égyptiens. On est parti sur ce thème-là, tu vois. Tu vois, par exemple, là, j'en ai une chez moi et que je dois déguster là prochainement, justement. J'étais à Chypre l'été dernier, donc j'ai découvert pendant un petit festival, il y a que 8 brasseries à Chypre, je vous avais parlé de Chypre dans un épisode précédent, Octo Brewery, donc qui a fait une bière aux figues, un gruit aux figues, et j'ai repéré du coup l'étiquette hier parce que j'avais pas trop fait attention, je savais que c'était un gruit, mais j'avais vraiment hier en rangeant un peu, j'ai retrouvé cette bière et effectivement tu vois un QR code, et quand tu scannes ce QR code, tu aboutis à un petit reportage de 4 minutes où là, ils ont vraiment fait cette bière-là en fonction de ce qu'ils avaient découvert sur un chantier archéologique. Et donc, tu vois, les archéologues qui ont, du coup, brassé cette bière avec eux. Alors, c'est une reproduction, donc ils ont utilisé leurs outils modernes pour la faire, comme nous, on avait fait nos gruites avec les outils modernes. Et tu as ce monsieur, donc je dirais que le nom m'échappe, les gens, je pense, peut-être qu'ils le connaissent, me diront qui c'est, qui fait justement cette archéo expérimentale pure et simple avec vraiment des outils qu'il essaie. Il va faire son propre fourquet, il va utiliser une marmite faite à l'ancienne et effectivement voilà. Tout ça pour dire que ce petit sujet que j'ai voulu faire, en fait c'est plus une introduction. Par exemple, tu vois, avec Elodie, on a prévu de faire des cafés des sciences au Bière Academy ou encore chez Brass Bastel pour parler par exemple vraiment du côté archéologique. Comme j'ai dit, moi, je ne suis pas archéologue et je n'ai pas les sources qu'a ma compagne du coup, sur ça. Il y a un site que je vous conseille, par exemple, qui va loin, qui s'appelle Beer Studies, qui est français. Hein, le site est en français, malgré le nom, en anglais. Le site est très bien fait. Et les recherches sont très poussées. Apparemment, il y a quelques petites coquilles, mais en même temps, le gars n'est pas non plus archéologue ni historien. C'est vraiment un indépendant qui fait ça par passion. Et Christian Berger, il s'appelle, je crois, de mémoire. Et franchement, il fait un travail qui est vraiment monumental. Et chapeau, parce qu'il fait vraiment un très, très bon boulot de recherche. Donc, on peut vraiment trouver beaucoup de choses. Après, vous avez effectivement, lui, il source effectivement tout ce qu'il fait, tout ce qu'il cherche, c'est sourcé. Donc, vous pouvez après vous amuser à chercher. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses. Le problème, c'est par exemple, tu vois, pour conclure, en France, en termes de bibliographie, on n'a pas de bouquins qui parlent de ça. C'est toujours les mêmes bouquins. C'est les 500 bières à goûter dans votre vie, comment faire un atelier dégustation, comment déguster une bière. Vous avez tous les éthologues de France à un moment donné qui commencent à sortir leurs bouquins, que ce soit Elisabeth Pierre ou autre, même si j'aime beaucoup le travail d'Elisabeth Pierre, mais c'est un peu toujours en fait, les mêmes rengaines. En fait, on s'adresse à un néophyte et on n'a quasiment aucun livre aujourd'hui, si ce n'est le Beer Economics ou un truc comme ça, qui a été une traduction en fait, d'un livre anglais, où on va te retracer un petit peu l'histoire de la bière. Par contre, en littérature anglophone, j'ai plein de bouquins qui te parlent de cette histoire. Donc, tu vas voir l'histoire de la bière en Angleterre, l'histoire des pubs. Il y en a notamment un auteur très prolifique en Angleterre qui fait des tas de bouquins justement sur l'histoire de la bière. Récemment, j'ai acheté un bouquin qui te parle de la bière pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment était brassée la bière, comment était acheminée la bière aux troupes. Notamment, j'ai fait un article sur un navire de guerre qui était une vraie brasserie en fait dans le Pacifique. Donc, il y a toute une littérature anglophone qui n'est pas traduite en France. L'avantage d'un site comme Beer Studies et toutes les sources qui, bah, du coup, qui publient également dans ses, dans ses recherches, dans ses écrits, c'est que ça vous amène à ça. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas anglophone, bah, on peine un petit peu à connaître l'histoire de la bière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me peine un peu parce que j'ai découvert le produit avec passion. Et au-delà de l'enivrement et de ce que ça procure, je trouve que c'est assez cool de se dire mais en fait, il y a une histoire qui date de 13 000 ans aujourd'hui avant notre ère, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites, notamment avec, en corrélation ou pas avec la bière, hein, mais il y a des trucs sur lesquels la bière a joué son rôle dans l'histoire. D'autres un peu moins, d'autres c'est un peu exagéré. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère que j'ai pas trop dit de coquilles, évidemment. C'est pour ça que j'ai fait vraiment dans les très grandes lignes, parce que voilà, je parle pas au nom des archéologues ou des historiens. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, tu sais, qui vont vulgariser les trucs sur les chaînes, qui vont se qualifier de chercheurs indépendants, et ils disent que de la merde sur des vidéos.
Je suis très indépendant des chercheurs, en fait.
Voilà, il y a des youtubeurs, c'est souvent des youtubeurs, hein, qui vont te faire des trucs sur certains sujets, et quand en fait tu écoutes, si tu es spécialiste du truc, et je vois des gens, hein, qui sont spécialisés dans certains domaines, qui disent, mais ils disent que de la merde, en fait. Des fois, il y a des trucs, des sujets, tu dis, mais non, tu vois.
Oui.
Alors, si le mec est dans cette spécialité, tu vois, genre si c'est un ethnologue qui fait une chaîne d'ethnologie, c'est cool. Le gars, il sait, ou la nana sait de quoi il parle. Si tu parles d'histoire, mais que t'es pas archéologue, bah des fois tu peux sortir des conneries. Tu vois. Donc je me risque pas à dire, je prends le rôle.
Mais pourtant on dit des conneries. Mais
et nous on dit des conneries,
on le fait volontairement.
Nous on le sait.
Enfin, pas toujours volontairement, mais on sait qu'on le fait.
Cinématographique.
Voilà. Et donc. C'était une histoire, voilà, pour conclure tout ça. J'ai trouvé que c'était intéressant de vous parler un peu de ça, de vous teaser un petit peu l'histoire de la bière, parce que j'aimerais beaucoup un jour écrire sur tout ça. Et que ce fameux repas préhistorique auquel on a été convié, auquel on a participé avec nos gruites, ça m'a donné l'idée de vous dire, ce serait marrant de vous parler un tout petit peu d'un petit bref extrait de l'histoire de la bière, parce que parler en un quart d'heure de 13 000 ans d'histoire sans être en plus du métier. J'avoue que c'est un peu un challenge que j'ai un peu peiné à relever, mais qui m'a plu et que je renouvellerai bien, bien volontiers. Pour conclure notre épisode spécial Noël, je vais vous diffuser un petit extrait de 30 secondes très connu du Père Noël est une ordure, et après on va enchaîner. Je vous propose un quiz spécial animaux, je crois, je vous ai fait.
Pourquoi ?
C'est ça. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Je pense que je suis parti sur un autre épisode et j'ai dit je vais faire sur les animaux. Donc on va faire avec.
Parce que tu as vu la petite bestiole sur la bouteille et tu t'es dit tiens, je vais faire un truc spécial animal.
C'est possible, mais attends, non mais sans déconner, regarde, je vais aller sur notre fameux dossier des conducteurs. Où on est. Et
c'est pas un fichier avec des plaques d'immatriculation, je vous rassure.
Non, je sais pas. Je suis parti sur des animaux. J'ai bugué, mais c'est pas grave. C'est tout aussi cool. Donc Cloug étant un animal. Voilà, c'est Cloug, hein, du coup, on va faire ça. Donc, je diffuse ce petit extrait, hop, j'enlève ça, et on va parler sur celui-ci, qui est très très drôle, que j'aime beaucoup.
Et je vais mourir dans 2 mois.
C'est cela, oui.
Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme.
Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là, et je vous passe ma collaboratrice.
Joyeux Noël, enfin, si je puis m'exprimer ainsi.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Thérèse.
T'encules, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse
partout,
je te défonce, je te mets, Thérèse,
ça nous intéresse pas, arrêtez ça, arrêtez, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse plus.
Je vais pas m'en fêler, passe-moi la gueule.
Ça nous intéresse plus, j'aime beaucoup. Et donc là, on va démarrer notre quiz sur les animaux. Je ne sais pas pourquoi. Bien joué. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait un quiz sur les animaux et j'ai pensé au podcast sur Godzilla qu'on a fait, mais il y a perpète.
Il est dans le passé, il est dans le déni. Il est remonté dans le temps.
C'est vrai. L'épisode avec Brasserie de Sulos de Guillaume, la Godzilla de mémoire, c'était ça.
Oui.
Mais je ne sais pas pourquoi. Mais comme d'hab, voilà, c'est sur les animaux. Hein. Il y a 20 questions plus une question bonus d'ailleurs.
On n'a jamais vu le Père Noël, donc le Père Noël est peut-être un animal.
Et peut-être, il y a des rennes. Hein, du coup,
qu'il y a des rennes. Voilà, c'était pour ça.
Mais peut-être que c'est juste. Peut-être que rennes, c'est une déformation et qu'en fait, le Père Noël, le traîneau du Père Noël est tracté par des punks à chiens. Qui viennent de Rennes.
Ça peut.
Donc je vais vous pitcher, hein, du coup,
des films de chiens,
des films d'animaux avec des animaux. Donc premier film et je crois que série. Je suis pas sûr que j'ai fait des séries. Non, je crois. Oui, il y a des séries sur la fin. Un film où tu te dis que peut-être t'aurais pas dû accélérer en voulant faire peur aux pigeons parce qu'ils sont vachement rancuniers ces condosois. de Piaf.
Ok.
Ouais, je suis allé très loin sur ce sujet, j'avoue. Je suis allé.
Les oiseaux de.
Voilà, Discoc. Voilà, simplement.
Ah, oui, oui.
On a tous eu ce moment
cherchais,
où.
Je cherchais beaucoup plus loin. En fait.
On a tous eu ce moment où on voit ce pigeon traverser. On dit, mais il est con, lui, ou quoi? Et puis, tu sais, tu essaies de pousser un coup d'accélérateur pour lui faire peur. Et puis, tu vois qu'il décolle pas. Et du coup, tu freines. Tu fais merde, je veux pas l'écraser. Mais genre, quand même. C'est con, les pigeons. C'est un film où un requin qui a décidé de te casser les couilles voilà, pendant tes seules vacances de l'année. Les Dents de la Mer, forcément, de Spielberg. Et on peut oublier les suites, la plupart. Je crois que le 2 était pas trop mal, paraît-il. Après, c'était n'importe quoi. C'est un film où on peut voir John Voight se faire recracher par un gros serpent, faire un clin d'œil,
Anaconda.
Puis se refaire avaler par un serpent. Ouais. Cette scène m'a marqué. Tu le vois, il sort, il fait un clin d'œil à Jennifer Lopez. Et je dis, mais pourquoi? C'est un film qui te fait dire qu'avoir un gros chien, c'est pas la meilleure des
Beethoven.
Idées. Beethoven, ouais. C'est un film où un resto parisien devient très connu tout en niquant complètement les codes d'hygiène et de sécurité. Ouais.
Je suis en forme.
Parce que la HACCP, c'est mort hein, avec Ratatouille. Ouais. Imaginez Auschwitz, mais dans un poulailler. Il y a une suite il n'y a pas longtemps.
Oui. Merde. J'ai plus le titre, ça revient pas.
Par le mec qui fait Voilà, c'est gros
vite. Ouais, ouais.
Pas Charles Mouton, l'autre.
Non,
Chicken Run.
Chicken Run, ouais, oui, donc Chicken ils ont fait Run. La que j'ai pas encore vu, mais que j'ai très hâte de voir, par dire qu'elle est bien. T'es là, tranquille, et puis ta caisse, elle se fait défoncer par une horde de rhinocéros, alors que t'as rien demandé à personne.
Jumanji,
le premier, je précise. Bien que le dernier se conclue par des tam-tams où tu te dis, il va y avoir des animaux qui vont sortir, et puis ils ont, on sait pas s'ils vont avoir une suite ou pas. C'est, dans ce film, il me fait marrer parce que c'est vraiment ça. C'est l'histoire d'un couple qui va adopter un enfant orphelin. Et en fait, c'est tellement des gros connards qu'en fait, ils adoptent juste une souris.
Stuart Little.
Ouais. C'est quand même un mouvement d'enculé, quand même. Tu vas pour adopter des enfants orphelins, t'adoptes une souris. C'est vraiment des connards, les parents. Tu vois,
c'est pas faux. Avec Hugh Glory.
Hugh Glory, ouais, c'est vrai. C'est un film pour les véganes. Parce qu'il te montre que les vaches, c'est aussi des animaux de compagnie.
La vache le prisonnier.
Ouais, un de mes films préférés avec Fernandel, oui. Que j'adore. C'est un film qui te fait comprendre que quand tu fais une expérience scientifique, il faut toujours, toujours avoir du bégon sur toi, sinon ça fait un peu bordel.
La mouche.
La mouche. De David Cronenberg, à ne pas confondre avec la mèche de David Cronenberg. Pour ceux que la référence avec les inconnus, écoutez notre podcast avec 90 BPM, Mazout, ne pas se jeter dedans. C'est un film où on te dit que soi-disant l'homme nique la banquise alors qu'en fait c'est à cause des putains de pingouins et des manchots qui dansent sur Cotton Eye Joe en tapant des pattes et après ça fait défoncer la banquise exactement qui se craquelle et le pire c'est qu'on va accuser Scrat l'écureuil
et toujours.
C'est Happy Feet donc avec Robin Williams je crois dans le film qui double un vieux manchot.
D'ailleurs rien à voir avec ton quiz mais je reviens
mais
sur
mon
le
quiz n'a rien à voir de toute façon avec
c'est
quoi
pas faux
que ce soit,
c'est pas faux je reviens au sujet de départ qui est le pardon les petites ordures
oui
l'extrait que tu as passé avec le gars au téléphone est-ce que oui. Vous reconnaissez qui est
Martin Lamotte.
Non,
Michel Blanc
voilà.
C'est Michel Blanc mais dans la pièce de théâtre c'était Martin Lamotte je crois
c'est pas impossible vu qu'il avait
oui. Ils ont inversé après, enfin ils ont changé.
Donc, du coup, rien à voir, mais comme on revient à notre quiz qui n'a rien à voir.
Tu as raison. Un film où on essaie de sauver un orque qui manque d'écrabouiller un enfant en roulant des mécaniques.
Sauver Willy,
classique. C'est un film où on découvre une espèce de chauve-souris légendaire. Chicaca.
C'est Ace Ventura le 2, je crois.
Ouais, le 2, ouais. Le 2 exactement. Mais que le 1 est aussi extraordinaire. C'est un chien qui résout des enquêtes. Tout en se cagant dessus quand même.
Scooby-Doo.
On avait fait un épisode sur Scooby-Doo, je crois, non? On avait parlé de Scooby-Doo, non?
On en a parlé, non.
Oui, c'est Inspecteur Gadget, je crois. On avait parlé, c'était avec Victoria, justement. Ria. T'es là, Pélard, et puis ton veto, bah, en fait, c'est Eddie Murphy qui parle aux animaux au KLM.
Docteur Dolittle.
Il y a eu aussi un film Docteur Dolittle avec Robert Downey Jr.
Oui.
Dans sa période de post-Iron Man. T'es là, t'as de l'argent, tu pourrais résoudre la famine dans le monde, mais non! Tu décides de faire revivre des lézards.
Jurassic Park.
Bah oui. J'ai dépensé sans compter. Mais connard, t'as mis le bordel. Il a mis le dawa dans le monde. Et ils refont un autre Jurassic World. Hein.
Ouais, j'ai vu ça.
Putain, arrêtez, pitié. Laissez-la tranquille, cette franchise. Un film où parmi les conseils que tu peux retenir, c'est de ne pas naviguer sur une barque avec un tigre. Très bon conseil.
L'Odyssée de Pi,
ouais. C'est vrai que c'est un très bon conseil. C'est un film.
Et c'est un très bon film aussi.
Et c'est un très bon film aussi. C'est un film qui raconte la vie de Diane Fossé.
Ah, un gorille dans la brume.
Un gorille dans la brume, oui. Ouais. qui est aussi mon surnom quand je sors de la douche.
Jean-Michel pas compris.
C'est un chien célèbre dont le nom sonne comme Renault qui essaie de chanter.
Ah bah si.
Non. L'autre.
L'autre. Ouais, plan.
Non.
Un chien
Ratatin.
Célèbre.
Voilà. Ratatin.
Oh putain, bien joué.
Et ouais.
Bien joué.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est Wolf Wolf qui prend l'homme. Ratatin. C'est un chien qui aboie et qui permet en 2 secondes de sauver des vies.
La scie ?
Voilà. Okay. La scie ? Ruff, ruff. Quoi ? Des gens sont coincés sous 4 mètres de neige près du col du Canigou avec seulement 23 centilitres d'eau et une barre de céréales granola et l'un des alpinistes a un diabète et un ongle incarné. Fonçons ! Genre, bah, c'est exactement ça, la scie. C'est que le chien, ben. Bah... Voilà, on comprend tout ce qu'il dit. Et bonus, cet animal est le surnom que se donnent Eric et Victoria dans la vie.
Babe.
Voilà. Oh. Babe, le cochon aventurier. Voilà.
Un film réalisé par George Miller.
Oui, en plus.
Ça, c'est un bon cochon.
Le mec qui fait les
sortir,
Mad Max.
Il va sortir Furiosa cette année.
Mm-hmm. Il faut que j'aille chez le coiffeur, j'en peux plus. J'ai une mèche de cheveux, j'ai l'impression d'être dans le Toy No Hippa 6, c'est pas du gâteau. Eh bien, on va arriver à la fin de notre épisode. On a 1h19.
Est-ce
c'est
que
cool.
Je peux dire un truc qui n'a rien à voir aussi?
Mais oui, vas-y, parce que mon podcast, mon quiz n'avait rien à voir.
Ça n'a rien à voir ni avec le podcast, enfin le sujet du podcast, ni avec ton quiz. C'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il va, je viens d'apprendre. Là, c'est tombé sur mon téléprompteur
que le gars qui chantait Destiné est mort.
Non, ça c'était la dernière fois. Mais la société de production Splendor Film va ressortir 36 ans après son succès au cinéma le 17 avril en 4K le film Robocop.
Oh,
voilà. Oh chouette. Au cinéma ?
Au cinéma en 4K, ouais.
Oh,
une
je vais
projection
aller voir.
Spéciale, quoi, mais.
Le jeu, j'ai pas joué au jeu, mais le jeu vidéo qu'ils ont sorti a l'air extraordinairement bien fait, avec tous les acteurs qui reviennent en modèle 3D. Enfin, ça a l'air assez dingo, quoi.
Voilà, j'arrête le random, la news random.
C'est ça. Mais non, mais tu as bien fait d'en parler. C'est le moment de passer à nos recos du mois. Enfin, du mois dernier, du coup.
Enfin, du mois qu'on peut, quoi.
Voilà, donc, est-ce que vous avez des recos, les copains ?
Oui,
ah, absolument pas.
Ah. Toi, Eric, quelle est la tienne, du coup ?
Eh bien, j'ai enfin vu le...
Je parie que t'en as pas pour l'épisode suivant, du coup, non plus.
Ah ben non.
Vu qu'on enregistre
après. J'ai enfin vu le film qui a eu la Palme à Cannes. Anatomie
ah oui, tu m'en as parlé.
Voilà, donc comme il a été nommé aux Oscars, ouais. Au César... Avec un joli pied de nez pour les Oscars d'ailleurs, vu que la France ne l'avait pas mis dans sa shortlist, n'avait pas présenté à l'Académie des Oscars en mettant La Passion de Dodin Bouffon, que je n'ai pas vu, mais qui paraît-il quand même un film honorable. Ouais. Mais résultat, aucun film français n'a été dans la catégorie meilleur film étranger à en nommer. Et par contre, Anatomie d'une chute et partout dans pas mal de catégories aux Oscars. Et donc,
c'est cool.
Et je me suis dit. Allez, cette année, je me fais un petit délire. J'essaie de me faire tous les films qualifiés pour le meilleur film aux Oscars et tous les films qualifiés pour le meilleur film au César.
Okay.
Ou en VOD ou en salle quand c'est encore le cas, etc. Et donc, je suis allé voir Anatomie d'une chute, qui est toujours en salle ce jour. Mm-hmm. Et honnêtement, bon film. Alors, au début, c'est un film de procès. Donc, on a déjà vu ça mille fois.
Ouais,
et
ouais,
en
ouais.
plus, un film de procès en France. Comment dire que le rythme n'est pas le même que...
Ah, je suis désolé, mais je trouvais que Tribunal était une très bonne série. Avec le mec avec son ami imaginaire, pour voir cet épisode légendaire, le mec, il a son ami imaginaire.
Mais au plus tu réfléchis au film après coup, au plus tu te dis, bah, c'est en fait l'anatomie d'une chute, c'est pas l'anatomie d'une chute pour identifier ce qui s'est réellement passé, mais c'est aussi l'anatomie d'une chute d'un couple, parce qu'il y avait des problèmes conjugaux. C'est aussi l'anatomie d'une chute... La chute, et donc ce mort va entraîner la chute de plein de personnes autour d'eux, de son fils, machin, de sa femme, enfin tout.
Apparemment, il a l'air très très bien.
Et au final, il y a plein de petites touches dans ce film, notamment l'actrice principale Sandra Hüller, qui est d'origine allemande et qui du coup parle, pendant le procès, dit je parle en anglais plutôt. Ce qui est surprenant quand vous regardez le film, c'est qu'il est énormément en anglais en vrai. Parce que ça se passe en France, mais. Ça se passe en France, mais l'actrice allemande et donc le personnage allemand d'origine parle souvent en anglais pour mieux se faire comprendre, enfin pour échanger la plupart du temps. Et donc, du coup, t'as beaucoup de passages en sous-titres. Et donc, faut te prévenir quand même, sur le début, c'est un peu bizarre. Quoi.
Ouais,
Dis, mais il y a des sous-titres, mais est-ce que je suis allé voir le film en version québécoise sous-titrée belge ? Je ne comprends pas.
Je l'ai posé à Scolès de Tabernacle.
Non, donc honnêtement, une bonne surprise. Mm-hmm. Mais qui se digère après coup, en fait. C'est-à-dire, au début, je me suis dit, bon, c'est qu'un film de procès, quoi.
Ouais.
Parce que, voilà, hein, c'est bon, tout ça pour ça. Et après, Le film a mûri, ouais. comme dirait l'autre. Et bah, finalement, je considère ça comme... Je comprends pourquoi.
Okay, okay.
C'est un bon film.
Je suis tenté de le voir. Je suis en même temps qu'on parle, c'est sur le site de Gaumont Pâté, parce que j'ai l'abonnement, du coup. Et c'est vrai que je ne suis pas allé au ciné depuis bien 2-3 mois, donc autant dire que ma rentabilité de carte, il faudrait que je vois si je ne vais pas me désabonner un jour. Et c'est vrai qu'en ce moment, peu de films, tu vois, par exemple...
Et ça va être encore
Argyle,
pire.
Mais bon.
Ouais. Et ça va être encore pire dans les mois à venir, parce que là, on va rentrer dans le dur des conséquences de la grève américaine.
Et oui.
Du coup, là, on ne va plus avoir de films américains, ou très peu, pendant 2-3 mois.
Il faut qu'il y ait des films français bons, et ce n'est pas toujours...
C'est pas toujours. Tout du moins, ce n'est pas le cinéma le plus accessible en général. Quoi.
Après, s'ils font, tu vois, du retro movies, tu vois, comme ils font des fois, moi, je suis chaud, en fait. Moi, je trouve que c'est ça qui manque.
Tu vas voir Dune, quand même, qui sort.
Oui, il y a Dune 2, ouais. Vous avez vu le pot de popcorn de Dune 2
non.
qu'ils ont fait. Il faut que je vous montre le pot à popcorn de Dune 2. En gros, vous voyez ce truc, c'est un podcast interdit au moins de 18 ans. Vous voyez ce sex toys pour hommes, tu sais, où en gros tu mets ta teub dans un truc qui ressemble à une meuf qui suce ou qui te.
Ok. Je ne connais pas. Voilà, je ne sais pas où tu traînes.
Ça s'appelle un flèche truc, tu vois. Eh bien, je vous jure que, parce que c'est sur Twitter, ça t'est repris, ça m'a fait mourir d'ailleurs. Ils ont créé du coup un pot où c'est le monstre, c'est le fameux verre, tu vois.
Ah oui, ok.
Sauf que quand tu vois le design du truc, les gens, ils ont fait, mais attends, mais c'est pas un pot. Popcorn, ce truc, c'est un flèche, c'est pour mettre son truc dedans, c'est dégueulasse, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme le bonnet phrygien qui est en fait littéralement
féminin,
tu vois. Et du coup, tu as une pareille idolie sur ce truc, et en fait, tu veux les trucs sur Twitter sont à mourir de rire. Taper Dune 2 popcorn truc,
oui,
popcorn enfin... bucket, voilà. Et en fait, vous allez voir ce truc. Alors, je comprends l'idée, elle est pas con en soi. Mais non,
pas du tout.
Et à un moment donné, c'est passé par un comité qui a validé le truc. T'en as pas un qui a dit, les gars, c'est un peu tendancieux quand même le truc. Tu le vois, là, Brice, tu le vois sur sa tablette.
Oui.
Tu vois
voilà. Oui.
Voilà,
ben c'est très ressemblant, un verre des sables.
Voilà.
Oui.
Voilà, non, mais tu prends le sex toy pour homme,
et
ben c'est
et
le même.
Et t'es censé mettre ta table là-dedans.
Non, tu mets ta main dedans pour prendre des pop-corn. Mais du coup, ça ressemble énormément à ce fameux truc, je crois que c'est Fleshlight, ça s'appelle, voilà. Et en fait, les gens voilà, sont partis sur ça, qui ressemble en gros à ceci, tu vois. Donc, il dit, ah ouais, ça a quand même un air de truc. Donc,
okay. Oui,
c'est un petit fail qui m'a fait beaucoup rire en termes de marketing et qui, à mon avis, va rester dans les annales. Pardon, excusez-moi. Et vas-y. Non, par contre, pour revenir plus sérieusement, c'est vrai que je trouve que ce serait bien qu'il y ait plus de rétro movies comme le font des fois Pâté.
Il y en a déjà pas mal qui se font, même, enfin, moi je parle pour la ville de Marseille, aux États-Unis. Aux États-Unis moi.
Il est américain maintenant, Eric. Il a même un van.
À Paris,
ouais.
ça se fait régulièrement. Même à Marseille, ça commence.
Tu as le cinéma du Prado à Marseille qui fait des séances assez régulières.
Même l'Arplex. Chaque semaine, il y a l'association Le Poulpe Savant qui fait des rétro movies tous les mardis et samedi, je crois. Dans tous les mardis et vendredis soir. Enfin, il diffuse deux fois.
Ouais.
Désolé,
voilà,
je suis désolé.
C'est drôle. Les mêmes qu'ils ont fait sur ce popcorn bucket, c'est terrible. C'est vrai qu'Arplex, je n'ai jamais encore été. Arplex, c'est un cinéma pour ceux qui ne sont pas du coin, là où on habite, qui a ouvert en haut de la Canebière et à la place d'anciens locaux de la mairie. Et apparemment, c'est un très bel endroit qui a ouvert.
C'est un bel endroit et surtout, il garde des films. On va dire, c'est mi-film. Enfin, c'est pas aussi film auteur que ce qu'on a pu connaître à Marseille avec le Feu le César.
Il y a un peu des deux, il y a un peu de tout.
Il y a un peu de tout. Et surtout, il garde les films importants un peu longtemps. Cette semaine, il y a toujours Un Tommy d'une chute, La Palme d'Or. Il y a toujours Le règne animal.
Ouais, ouais.
Il y a toujours le Miyazaki, le garçon, le héron. Il y a le film de Perfect Days de Wim Wenders. Il y a le Winter Break de Holdover qui est aussi nommé pour les films que j'ai vus aussi. J'en parlerai peut-être au prochain épisode, etc. Il y a toujours Wonka, par exemple.
Ah oui, Wonka, je l'ai pas vu. Donc, il y a Mousquetaire, par contre, c'est de la merde.
Et par contre, voilà, comme je te disais, les rétro movies, eux, ils passent Suspiria mardi soir. Et t'as tout un programme.
C'est dans événements, je suppose, qu'ils font ça.
Ouais, je sais plus comment ils l'ont. Ils l'ont nommé, mais c'est... tu peux le retrouver sur leur compte Instagram.
D'accord.
Okay. Ça, tu le vois souvent, quoi. Les...
Parce que tu vois, tu as à Marseille, on a le cinéma du Prado où tu avais les soirées, tu souvenais, ils avaient fait la trilogie.
Ils appellent ça plan culte. Ils appellent ça plan culte. Et en plus, c'est un tarif pas cher, c'est à 8 euros.
C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que, voilà, des fois, Pathé, alors, vous savez, comme je suis abonné Pathé, effectivement, Pathé fait des fois du rétro-vise. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, en ce moment, tu vois, je regarde un peu les trucs qui vont sortir. Bon, t'as Argyle qui a l'air rigolo, mais c'est plus du divertissement, mais ça veut pas dire que c'est le film de l'année. Et après, bah ouais, je suis curieux de la biographie de Bob Marley, de Maison de retraite 2, ça me donne absolument pas envie. Enfin,
et voilà, y a par exemple, il y a 4 ans au Prado, nous sommes allés voir Il était une fois dans l'Ouest.
Oui, c'est vrai.
Jour pour jour.
C'est vrai. On avait fait, il y avait c'était pendant une semaine ou pendant un mois, je crois, ils diffusaient que des vieux westerns et c'était génial, quoi.
Et par exemple, ils font aussi une version enfant le dimanche matin.
Ouais.
Aujourd'hui, il y avait Beetlejuice.
Ah, génial. Génial.
Et en mars, il y aura Gremlins.
Ok.
Et là, je regarde un peu le programme des. Alors,
mais je vois qu'ils font les Astérix, là, les deux Astérix là, de Astier, qui sont sur leur site prochainement, tu vois, par
d'accord.
Exemple.
D'accord. Et, c'est cool, et, c'est très bien. Dans le truc plan culte dont je parlais, pour les semaines à venir, donc cette semaine, Suspiria, la semaine d'après, Le Convoi de la Peur de Friedkin.
Oh.
Celle d'après, Blowout de Palma avec Travolta. La semaine d'après, C'est arrivé près de chez vous de Blue Board.
Oui.
Il y a Rashomon de Kurosawa la semaine d'après. Il y a La Fureur du Dragon avec Bruce Lee. Puis L'Armée de 12 singes, puis Les Dents de la Mer. Donc voilà,
ouais, donc
en rétro movie, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire des trucs sympas.
Voilà,
ouais.
Donc un par semaine, ça, c'est largement suffisant. Oui. Si il y en a un par semaine par cinéma, quoi, les ressorties, ça va.
C'est bien, ouais, c'est bien. Mais c'est vrai que tu vois, en film nouveau, en ce moment, je suis pas transcendé par ce qu'il y a au ciné. D'ailleurs, moi, Marocco n'est d'ailleurs pas du tout un film, hein, parce que ces derniers temps, j'ai pas eu le temps vraiment d'aller au ciné, comme je le disais. Du coup, je suis plus dans le format en ce moment, avec le boulot, essayer de trouver des formats un peu courts. Et comme je suis toujours un peu fan de tout ce qui est Marvel, évidemment, je me suis essayé à la saison 2 de What If. Et en n'étant pas hyper convaincu, mais j'avais vu la première et j'avais quand même bien aimé. Et en fait, j'ai vraiment, vraiment bien kiffé, quoi. J'ai trouvé les histoires très bien faites, ça m'a beaucoup plu. Il y a notamment un What If si à la fin de la première Avengers, Iron Man n'arrivait pas à repasser par le portail en redescendant sur New York. Il est capturé, il est amené chez le personnage de Jeff Goldblum dans Thor Ragnarok. Et il fait une course, un défi de course en mode Mario Kart limite avec comment il s'appelle, les noms m'échappent, tu sais, le personnage qui est en caillou là, qui est doublé par Taika Waititi.
Oui, j'ai pas son nom.
Voilà, et la Black, la Valkyrie, le nom m'échappe, j'ai plus de la mémoire des noms souvent. Et voilà, t'as ça, t'as le fait que Captain America devient en fait Captain Carter,
ouais.
qui prend vraiment la série en fait en main, le personnage prend la série en main. Et je trouve ça vraiment très cool qu'ils aient changé un peu la donne en mettant Captain Carter, parce que je trouve finalement que Captain Carter est un personnage très intéressant et j'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été amené avec les autres Doctor Strange et tout ça. Il y a eu des épisodes quand même très très cool. Et avec un petit final quand même bien sympathique aussi qui a été fait. Donc voilà, il y a eu un épisode notamment What If si par exemple Yondu avait décidé de rendre Star-Lord directement à Ego, tu vois. Donc tu vois un peu Ego, tu vois, avec le jeune Star-Lord, tout ce bordel. Voilà, j'ai eu pas mal d'épisodes vraiment que j'ai trouvé bien, bien sympa. Et franchement, voilà, pour un format, ça dure 20-21 minutes l'épisode. Tu vois, je me suis quand même bien amusé. Il y a la plupart des acteurs originaux qui reprennent leur voix, à part Scarlett Johansson ou Robert Downey Jr. par exemple. Mais alors, par contre, en VO, c'est assez bluffant parce que ils ont les mêmes timbres de voix et tout. Donc, franchement, c'est après un truc. Et mon épisode préféré de sa saison 2, et j'ai vraiment kiffé puisqu'on est dans l'épisode de Noël, c'est l'épisode 3. Et si Happy Hogan avait sauvé Noël? Et c'est un remake total de Die Hard, mais vraiment, hein, dans la tour des Avengers, où tous les Avengers sont en train de faire un truc de Noël avec des enfants et tout. Et lui, en fait, il est en train de préparer la fameuse soirée de Noël. Et tu as littéralement, en fait, le personnage, donc le méchant du 2, je crois. Le méchant du 2, je sais plus par qui il était joué, enfin voilà, qui reprend son rôle, qui reprend exactement le personnage d'Hans Gruber en fait, si tu veux. Et genre, voilà, t'as Happy qui se retrouve en mode Hulk Hogan, j'adore, qui sort Happy Hogan, Hulk Hogan, qui se reprend en mode Hulk, voilà. Et du coup, t'as les mêmes répliques que Die Hard, t'as des scènes complètement identiques à Die Hard, mais adaptées à la sauce Avengers. Et le flic, dans Die Hard, vous avez Regina Bell Johnson qui est le flic qui aide John McClane. Là, c'est Darcy, en fait, la stagiaire qui est jouée par l'actrice principale de Two Broke Girls. Je sais plus comment elle s'appelle aussi. Bon, je suis pas très bon en nom pour cet épisode, je suis désolé.
Et la brune d'entre eux.
Voilà. Et qui joue justement la pote de Natalie Portman dans Les Thor, quoi, la série des Thor. Et donc voilà, l'épisode était très très cool. Voilà, j'ai vraiment pris mon pied. Il y a eu très peu d'épisodes où j'étais un peu meh, tu vois.
Kat Dennings,
voilà, merci. Et qui est marié avec un mec que t'aimes bien, là, qui fait des chansons ou sur la couverture. Putain, je suis nul, j'ai oublié tous les noms. Tu sais, il saigne du nez, il a les cheveux longs, il saigne du nez. Andrew W.K. Elle est mariée à Andrew W.K.
Qui, Kat Dennings?
Ouais.
Dans la vraie vie?
Ouais.
Sans déconner.
Ouais, Andrew W.K.
Merde.
Si vous connaissez Andrew W.K., c'est du rock un peu punchy, un peu péchu, très drôle. Et le mec est toujours en blanc, avec des cheveux noirs, et puis il fait du headbang, quoi. C'est juste ça. Voilà, puis je vous dis, voilà, si Iron Man avait rencontré le grand maître, si Captain Carter avait combattu l'écraseur d'Hydra. Et si Ella avait trouvé les 10 anneaux, donc on a le personnage de Ella qui se retrouve dans l'univers de Shang-Chi. Si les Avengers se rassemblaient en 1602, je trouve ça très original, vraiment. Enfin voilà, il y a eu plein de épisodes vraiment vraiment cool. Et j'ai trouvé que c'était bien parce que c'est vrai que les séries Marvel, en dehors d'une dont je parlerai dans le prochain épisode, avec le recul, elles sont pas géniales. Et même les films finalement sont assez bateaux. J'ai vu The Marvels, hein, et ouais, c'était pas aussi pire que ce que les gens croyaient, parce que franchement j'ai trouvé que c'était pas dégueu non plus, mais c'est pas transcendant du tout, c'est limite passable en fait, tu vois. Et puis si t'as pas vu les séries, tu sais absolument pas qui fait quoi, parce que franchement il y a aucune transition de début qui t'explique quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, toi Brice, tu n'avais pas de roco, tu nous l'avais dit, moi.
Non.
Brice,
n'y a pas de reco.
Donc voilà, on va conclure cet épisode.
On va rendre l'antenne.
À
vous, Cognac G.
À vous, générique. Donc vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, www.lesbiernarratives.com, avec promis, le site sera mis à jour prochainement. Je vais avoir le temps de tout remettre en ligne, mais voilà.
Sur les applis de podcast, j'ai mis saison et des trucs.
Oui,
comme ça.
J'avais tout réorganisé, donc c'est voilà. Très cool. Eric, toi, on peut te retrouver sur www.lesartnarratifs.com.
Le Facebook, le Twitter, l'Instagram, le Blue Sky, le Mastodon, Art Narratif. Hein,
exact, voilà. Brice, toi, on te retrouve sur Piglet for Grunt ou Gruntosaur sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter.
Oui, c'est ça.
X.com.
Moi, j'ai un compte aussi sur Blue Sky que j'ai jamais.
Blue Sky,
mais j'ai un compte.
Voilà, moi aussi. Alors, du coup, j'ai un compte sur www.thebienentente.com, évidemment. Il y a quelques articles qui vont arriver dans les semaines prochaines à venir, ça va bien. Voilà,
d'ici notre mort, il y aura bien des articles.
Voilà, non, là, j'en ai
tant qu'on paye l'hébergement, il y aura bien quelque chose.
Un des prochains articles va être sur les distributeurs. Et sinon, vous pouvez être sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, même TikTok depuis peu. Je vais publier des trucs. Enfin, je mets un peu sur tous les réseaux, Thread d'Instagram, Blue Sky et Mastodon. Voilà. J'ai fait un peu tout le tour. Voilà. Après, il y en a où je suis plus ou moins actif, mais voilà. Donc, merci à tous d'avoir écouté cet épisode spécial Noël. On se retrouve dans un prochain épisode, beaucoup plus terre à terre, où on parlera peut-être un peu de la vie de bureau en général.
Voilà.
À bientôt. Salut.
À plus dans le bus.
Au revoir.
Vers l'infini et au-delà.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.